police à Rock Against Racism, parce que tout le monde se dit antiraciste. Mais dans notre vie quotidienne, le recours à la police est raciste en soi. L'antiracisme a toujours été larmoyant. Les pauvres immigrés, faut les protéger, etc. On nous prend pour des cons, quoi.
L'État qui oppresse, les flics qui tabassent, les politiques qui s'engraissent, les votes fâches qui s'amassent. Pour comprendre, pas besoin que nos textes soient passés au crime. On a désigné nos cibles, y'a pas de confusion possible. Ha.
Le 25 mai, journée spéciale Rock Against Police sur Radio Canut. De 8h à 13h, diffusion de la série de reportages Rock Against Police sur les ondes du 102.2. Et de 18h à minuit, soirée à l'atelier des Canulars, au 91 rue Montesquieu, Lyon 7e, avec une retransmission en direct sur Radio Canut de 18h à 20h.
Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, la suite de la journée spéciale Rock Against Police, qui a commencé ce matin avec la diffusion des 6 épisodes de ces reportages, de cette série documentaire, et qui se poursuit ce soir à l'Atelier des Canulars avec un plateau live de 2 heures retransmis sur Radio Canu. Alors, la série Rock Against Police, elle revient sur des mouvements d'auto-organisation dans les quartiers populaires au début des années 80. Et du coup, ce soir, on va, sur ce plateau live, commencer par faire un retour autour de cette série, autour des mouvements d'auto-organisation dans les années 80, en présence de réalisateurs et de réalisatrices de l'émission. Et puis, on poursuivra sur les luttes qui se déroulent actuellement sur les questions de quartiers populaires, et plus précisément de violences policières, de crimes policiers, en parlant des comités Vérité et Justice.
Débarquer une longue marche qui n'est pas celle de Mao, mais qui est une longue marche qui est celle des enfants de l'immigration. Et tout d'un coup, il y avait une forme d'espérance, parce que ce qu'on faisait dans notre coin, simplement comme ça, dans, encore une fois, dans la clandestinité, on a eu le constat réel que l'écho des villes, de ce qui se passait, des cités de l'une à l'autre, que les mêmes choses se vivaient. Et que ça, il y avait une réponse possible qui pouvait être et politique et sociale.
Alors, on vient d'entendre Mounsi, un extrait du documentaire Rock Against Police. On est avec donc les réalisatrices et réalisateurs de la série. Pourquoi vous avez voulu débuter l'émission sur cet extrait ?
Bonsoir d'abord. On voulait commencer bizarrement par la fin, parce que là, ce qu'on vient d'entendre, donc effectivement, on a entendu une archive de la marche pour l'égalité et contre le racisme, et puis un petit commentaire par Mounsi, qui est une des personnes qu'on a rencontrées pour fabriquer la série d'émissions sur l'histoire de Rock Against Police. Et en gros, nous, c'est effectivement l'histoire de la marche qu'on aborde très rapidement dans la série radiophonique. Ça a été notre point d'arrivée. Or, cette marche, longtemps, elle a été considérée comme un point de départ, comme s'il n'y avait rien eu avant. Par exemple, Samir, au début de la sixième émission, la dernière, donc, au tout début, il dit « Ce qui m'énerve, c'est qu'on célèbre la marche, on la célèbre toujours comme si c'était un événement isolé et qu'il n'y avait pas toute une histoire derrière. Et pourquoi on ne parle pas de toutes les luttes qu'il y a derrière ?» Donc nous, c'est effectivement le chemin qu'on a fait, non pas du tout pour dévaloriser la marche, mais justement de revenir en arrière sur les luttes et les expériences d'auto-organisation qu'on précédait. Ça permet précisément peut-être de mesurer ou de réévaluer beaucoup plus l'importance historique et la force politique de ce qu'a été la marche de 83, donc qui est arrivée, qui a démarré d'ailleurs ici, d'une expérience qui était liée à la ZUP des Minguettes, et dans un contexte de fortes tensions entre la police et les quartiers, et puis qui est arrivée à Paris le 3 décembre, jusqu'à accueillir 100 000 personnes. Cette histoire de point d'arrivée plutôt que de point de départ, c'est un peu ce que dit Mounsi là dans ce qu'on a entendu, puisqu'il dit voilà, ça a été en fait c'était le point de visibilité d'une longue marche, mais donc qui avait commencé bien avant. Et en fait, cette marche a été non pas un commencement zéro pour une génération spontanée ou une génération zéro qui n'aurait pas eu déjà pas d'histoire, pas de mémoire et pas déjà un riche parcours quoi, subjectif, politique. Mais ça a été au contraire une caisse de résonance. Et donc, là où c'est aussi intéressant de revenir en arrière, c'est que, je disais, réévaluer l'enjeu politique, c'est que le fond, disons, de cette marche, c'était la question des crimes racistes et sécuritaires, la question des violences policières. Et en fait, pendant la marche, ça a été déjà aussi un objet entre les marcheurs de discorde, de conflit, où il a fallu, pour certaines composantes, batailler pour ramener cette question devant. Et avec la question des violences policières, la question des crimes racistes sécuritaires, il y avait aussi accroché à cette question, à ce problème dramatique à cette époque-là, toutes les problématiques qui se posaient dans le terrain social quotidien pour tous ceux qui vivaient en banlieue ou dans les quartiers. Et donc ces questions, c'était celles du logement, du revenu, du chômage, la question de l'urbanisme, de comment on circule librement dans ces espaces, comment on se rencontre, comment on s'organise, comment on fait lorsque il y a des quarts de CRS en permanence à l'entrée de la cité et qu'on se fait contrôler à tout bout de champ et qu'on peut non seulement se retrouver en prison le lendemain, mais en plus, quand on est issu de parents immigrés, se retrouver expulsé, quoi. Donc voilà, c'est tout ça qui revient beaucoup plus nettement au premier plan quand on refait un petit peu ce qu'on pourrait appeler une archéologie politique, quoi, disons, de la marche de pour l'égalité contre le racisme.
Alors justement, vous, personnellement, vous qui avez réalisé ce documentaire, vous en êtes venu comment à vous intéresser à ces questions et comment vous avez structuré votre travail pour produire cette série?
Du coup, cette série, donc pour rappel, elle est en 6 épisodes et effectivement, on a suivi pour la chronologie, enfin on a suivi en fait un peu l'ordre chronologique des différents concerts. Il y a un premier épisode qui est plus sur un contexte social, politique, culturel de ces années-là. Et ensuite, chaque épisode développe des thématiques particulières à partir d'un concert. Du coup, on a suivi cette chronologie et effectivement, le dernier épisode aborde la marche, même si ce n'est pas la partie centrale, mais aborde cette marche pour l'égalité. La façon dont on a débuté ce travail, peut-être je vais laisser la parole à Fun sur le tout début, en fait.
Alors, le point de départ de ce travail, c'est vraiment on peut dire la rencontre avec des archives. C'est-à-dire que nous, on habite en région parisienne, en banlieue, et on a un camarade qui nous a donné les journaux tracts, en fait. Et Rock Against Police, c'est les concerts Rock Against Police, concerts de jeunes immigrés prolétaires de banlieue. Et du coup, c'est la première chose, c'est la curiosité et l'intérêt en fait à lire ces journaux et à essayer de comprendre qu'est-ce qu'était cette expérience politique. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est vraiment les concerts Rock Against Police. On est au tout début des années 80, et c'est une dizaine de concerts entre 80 et 83. Et c'est une expérience finalement assez éphémère, quoi, on va dire. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, la curiosité, voilà, se dire, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire-là ? Essayer, en fait, de retrouver les acteurs, actrices. Et aussi essayer de retrouver des traces de cette expérience. Donc, une des personnes qui a parlé de ça, c'est Mognis Abdallah, dans un bouquin qui s'appelle « J'y suis, j'y reste », qui a été édité il y a un petit moment maintenant. Et du coup, ça a été une espèce d'essayer de tirer le fil de cette histoire et retrouver et des archives écrites et des personnes qui avaient vécu ces histoires-là. En plus de ça, la petite précision, c'est que ce n'était pas censé être, on va dire, dès le départ, un travail radiophonique. Et puis, ça l'est devenu au fur et à mesure.
Du coup, il y a des entretiens qui ont été faits. Au début, sans effectivement penser qu'on allait faire un travail audio derrière, radio. Et donc, on s'est retrouvé avec ces heures et ces heures d'enregistrement. Et donc, après, il a fallu monter. Et donc là, on s'est retrouvés à trois, et c'est un travail collectif où, sur chaque épisode, chacun a mis la main. On voulait préciser aussi, dès le départ, qu'on n'est pas du tout des documentaristes radio professionnels, qu'on n'est pas non plus des spécialistes de cette question, ni historiens, ni sociologues. Et qu'effectivement, ces épisodes, on les a construits à partir d'interviews de témoins directs, de protagonistes directs de cette histoire. Également aussi, donc, juste pour repréciser, les journaux TRAC, c'était des journaux qui étaient écrits par les gens de Rock Against Police, donc c'est un réseau fluctuant de personnes suivant les concerts. Il y avait un espèce de noyau dur, mais il y avait aussi des personnes qui venaient, qui participaient suivant les concerts, c'était pas forcément tout le temps les mêmes gens. Et donc pendant ces concerts étaient distribués des journaux TRAC, des 4 pages ou 12 pages, qui sont d'ailleurs tous sur le blog numérisés. Donc, qui regroupe énormément de textes avec des contenus très, très hétéroclites qui vont aussi bien d'une analyse politique très poussée à des témoignages directs, à des enquêtes sociales, à des poèmes, à des tracts, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce qui relie tous ces contenus un peu différents, c'est que c'était vraiment fait par des gens qui vivaient la situation qu'ils étaient en train d'écrire, donc notamment dans la banlieue parisienne.
Voilà, parce que géographiquement, celles et ceux qui écrivaient dans ces journaux tracts venaient tous de Paris.
Alors, en fait, pour repréciser, le premier concert, il est organisé dans un quartier à Paris, le quartier Saint-Blaise, où il y avait énormément de squats, notamment il y a l'autonomie parisienne. Il y a ce premier concert et ensuite tous les autres concerts se font en banlieue parisienne. Donc à Vitry, à Nanterre, à Cergy, à Argenteuil, j'oublie. Voilà. Et cette initiative, elle va être aussi reprise par d'autres groupes, notamment à Marseille et notamment à Lyon, où les Armats de banlieue vont aussi organiser un concert, en reprenant un petit peu cette idée des concerts Rock Against Police. Donc effectivement, c'est l'expérience Rock Against Police s'ancre plus en région parisienne. Et donc les documentaires, ils sont construits à partir de ces témoignages directs, donc de personnes qui ont vécu cette histoire avec des statuts assez différents, des gens qui ont été très éphémères, des gens qui étaient étudiants à l'époque ou musiciens, ou qui ont effectivement suivi cette affaire pendant tout le déroulé de cette expérience. Et on a aussi donc mêlé des archives, donc les journaux TRAC dont je viens de parler. On avait assez peu d'archives sonores, mais par contre, il y a des archives vidéo qui étaient faites par des collectifs. On y reviendra au cours de l'émission, qui étaient faites par des collectifs aussi. On a aussi mélangé tout ça avec des musiques. Donc, ce n'est pas forcément les musiques qui étaient jouées sur les concerts, mais c'était des musiques qui étaient assez emblématiques de cette époque et en tout cas qui étaient écoutées à ce moment-là.
Et du coup, d'ailleurs, on va écouter un petit morceau de musique de Carte de Séjour, qui était un groupe lyonnais de l'époque, et qui s'appelle Roromani.
Oh, Radio Canut, la radio più ribelle.
اسمعني يا خويا سي لا روحهم ماني لا روحهم ماني الدونس دو جوردي يا الدونس دو جوردي كابدو الله سعد الدون وانتمك لي بخدم الكيف وانتمانك تخدم الفيكس وانتمانك تخدم الفيكس وانتمانك تخدم السكس وانتمانك تخدم السكس وبكالتو مخدم النوم وبكالتو مخدم النوم يا
Je pense que c'est quand même important de situer le contexte. C'est-à-dire on est à la fin des années 70, début 80, hein, on est dans une période où on a des quartiers qui sont des réserves à chômeurs.
Samir.
Dans lesquels tu as, en gros, tu as deux institutions. L'école, mais qui fabrique des chômeurs, avec des diplômes ou pas, qui sont parqués dans des réserves. Et la deuxième institution, c'est la police. Donc le seul rapport que tu as avec la société dans laquelle tu vis, c'est la police, et les rapports sont évidemment conflictuels. On est dans une période où il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un gars, ou en général un arabe, qui se fasse buter par un flic, par un beauf, tonton flingueur. Et donc ça crée évidemment des rapports très, très tendus avec la police. Hein. Donc, regard de police, c'est ça, quoi. Hein. Le contexte.
Le 5 mars 1980, le comité de soutien à Abdelkader, tué à Valenton, écrit un appel à mobilisation. Extrait.
Abdelkader a été abattu par un policier le 2 février à 1h du matin, dans la cage d'escalier d'un bâtiment des Pologne à Valenton. Abdelkader avait 16 ans et demi. Il n'était ni costaud, ni agressif. Une bavure de plus ? Ce serait oublier les consignes de Bonnet, ministre de l'Intérieur, qui, à travers de cyniques déclarations à la presse ou de plus discrètes circulaires, exhorte ses subordonnés à faire usage de leurs armes chaque fois qu'ils se sentent menacés. Ce serait oublier ce racisme ambiant que la police est la première à manifester en séparant à vue d'œil de la foule qu'elle contrôle sans cesse, les gens que le teint basané désigne comme naguère, l'étoile jaune cousue sur le vêtement du juif. Ce serait oublier le discours dominant qui vise, dans la peur profonde qu'il provoque et entretient, à dresser la France de l'ordre contre tout ce qui désobéit et se rebelle. Ce serait oublier les derniers verdicts qui, sous couvert de légitime défense, relaxent les assassins dès lors que ces derniers ont défendu la propriété privée. Ce serait oublier ce code pénal sauvage des honnêtes gens qui punit de mort le vol d'une bagnole et pardonne un vol de diamants. Quand bien même la bavure devait être réellement un accident, la main du policier n'avait pas à être armée. Si elle l'était, si le flic a délibérément risqué l'irréparable, c'est que cette psychose de l'insécurité l'avait gagné lui aussi, le transformant en shérif. Cette psychose nourrie de scoops étudiés, de statistiques truquées, aveugle les gens. Elle leur fait désirer, avant la sécurité des prix, des salaires, de l'emploi, que le pouvoir est incapable d'assurer la présence des flics. Chacun s'enferme chez soi et prend peur de son voisin. On se cramponne à ses maigres biens, appelle à son secours des gens armés, au besoin les supplée. Nous combattrons la campagne permanente qui pousse la population dans les banlieues à prendre peur d'elle-même et à se présenter désunie et désarmée devant les vrais responsables de l'insécurité. De cette vie entièrement organisée pour l'exploitation et l'atomisation des travailleurs naissent le désordre et la révolte. La présence des flics ne changera rien. C'est cette vie qu'il faut changer. Nous lutterons pour arracher les moyens de changer cette vie.
En plus, il faut se rappeler qu'à l'époque, les armes, elles étaient en vente libre, hein, à Carrefour, à Décathlon. Hein. Il suffisait d'être major et on avait l'autorisation d'avoir une arme. Il y a eu des cas où le mec a buté un arabe et 6 mois de sursis. Alors que le minimum pour un vol, une tentative de vol de bagnole, c'était 2 ans ferme. Sans parler qu'il existait l'intime conviction, c'est-à-dire qu'un flic allait voir un juge et disait qu'il était convaincu que c'était vous le coupable d'un fait pour que ça ait valeur de preuve. Donc forcément, tout ça, ça n'allait pas en rester là. Au début, ça a commencé par parler de la marche. C'est vrai qu'on n'était pas tous d'accord à faire la marche. Parce que, bon, voilà, c'était parti dans la violence, et puis en même temps, on voulait répondre à la violence par la violence. Hein. C'était parti pour, de toute façon, comme on disait à l'époque, griller pour griller. Hein. Autant se battre, et puis au moins, on verra ce qu'il adviendra. C'est les mères de famille qui ont commencé à flipper. Et qui ont pris un peu la parole dans les quartiers et tout, elles sont pas hésité à monter à la scène, à expliquer leur point de vue à elles et tout. Et c'est elles qui ont commencé un peu à calmer le jeu, et à dire que de toute façon, elles avaient déjà vécu ça bien auparavant, hein, dans les manifs et tout, pour le FLN et compagnie, elles savaient très bien comment ça allait se passer. Donc voilà, elles ont calmé le jeu, et après il y a eu cette idée de marche, on sait pas trop comment elle est sortie, forcément, du chapeau d'un RG, forcément. Avec un pasteur et un cureton à la manœuvre. D'ailleurs, avant ça, comme il disait, le gars, il y avait plein de choses. Il y a eu des grèves de la faim, des mouvements, des occupations, des choses. Que la marche a un petit peu étouffé, mais bon, c'était volontaire. Ils ont inventé un mot beurre, ils nous ont bien mis de la tartine, ces enfoirés. Et le pire, c'est que bon, heureusement, il y a des choses qui ont changé, l'école... Parce qu'il fallait voir, l'école aussi, c'est un lieu de racisme à plein pot. La plupart des profs, ils les recrutaient, ils avaient travaillé dans les colonies, la plupart, eux et les flics. Il n'y a rien qu'à voir l'année dernière, quand un flic il s'est vanté d'avoir massacré des Arabes pendant la manif du FLN. Une jouissance en direct. Et à l'époque, il n'y avait pas les radios libres, ça fait que les infos, les gens, ils avaient ce qu'on leur disait à manger. Ah, donc tout ça, et après, bon, il y a des gens qui ont commencé un peu à réfléchir. Et heureusement, la scène culturelle, à l'époque, c'était autre chose que de faire des chansons « Je t'aime, Fleurette », et bien on va compter Fleurette dans la forêt, quoi. Les mecs, ils avaient déjà des discours un peu engagés, des choses à dire, et franchement, quand ils voyaient, ils se rendaient bien compte que les conditions dans lesquelles on était, c'était vraiment un régime d'apartheid, de couvre-feu et compagnie. Hein.
Mais excuse-moi, est-ce que toi tu pourrais rappeler justement où est-ce que tu habitais ?
Moi ? Oui. J'habitais à Aumingued, quartier Montmousseau, tout à tout. Malheureusement, ça a été un quartier qui a été cerné pendant longtemps, lacrymogénée, où ils ont tiré sur Toumi d'ailleurs. Suite à un moment, il y a Toumi qui est intervenu sur une arrestation concernant un gamin. Parce que les arrestations, c'était simple, hein, les gardes à vue et tout ça, ça se terminait à l'hôpital. Hein. C'était pas la peine d'aller attendre le mec au commissariat. Suite à une altercation, ils ont tiré sur Toumi, tout ça. Et voilà, quoi, dans l'euphorie, c'est parti en vrille. On a dû mettre un moment avant qu'ils envoient les secours et tout. Et les flics, ils en avaient rien à foutre en même temps, ils n'étaient pas trop pressés. Mais après, quand ils ont compris que ça allait partir en... Ils ont tout fait pour faire en sorte qu'ils soient extraits du quartier et emmenés rapidement à l'hôpital.
Et parce que du coup, ça fait écho à tout un tas d'autres meurtres policiers qui ont eu à la même époque.
Mmh. Parce que c'est vrai que ce qu'on a entendu juste avant que tu prennes la parole, juste pour resituer, c'est donc le comité en fait qui s'est créé, qui s'est monté suite à la mort de Kader, donc qui habitait à Valenton, donc c'est en région parisienne, qui est mort en février 80. Et en fait, Kader donc est mort tué par un gendarme. Parce qu'il était, en fait, il était poursuivi parce qu'il était accusé en fait d'avoir volé une voiture. Et ce début-là de 1980, c'est vraiment un moment où coup sur coup, il y a des jeunes qui se font tuer donc à Strasbourg, donc soit par des flics, mais aussi par des gardiens dans les cités dans lesquelles ils vivent. Et c'est justement le cas de Kader donc de Valenton. Donc très peu de temps, c'est-à-dire qu'il meurt le 13 février. Donc en 10 jours, il y a quand même deux gamins de 16-15 ans qui meurent parce qu'en gros, ils étaient juste là où il fallait pas, ou en tout cas parce qu'ils vivaient dans une cité, quoi.
Mais dans les assassinats, les ratonnades, tout ça, il n'y a jamais eu de début, une fin. C'était pour eux, c'était que la prolongation de ce qu'ils avaient fait subir pendant les manifs pour les colonies et tout ça. Il n'y a jamais eu de date de début, de fin, c'est tout. Alors, c'est qu'à un moment, il y a eu un moment, c'était trop, c'est tout.
Mais du coup, c'est pas quand...
Mais sinon, vous remontez, vous pouvez prendre tout l'abécédaire de toutes les années françaises, là, vous avez, sur chaque année, vous avez des centaines de morts. Abattus juste parce que c'était, voilà, juste parce que c'était des arbres, et puis c'est tout. Il nous est arrivé un contrôle à l'époque à l'Ami Burger, c'était un espèce de snack qu'on avait réussi à monter, comme ça. Eh ben, ils nous mettent contre le mur et le CRS, il lâche une rafale de Sten, normal. En plus, le pire, c'est que nous, on croyait qu'il avait fait ça pour nous faire peur. Le pire, c'est qu'il l'avait même pas fait exprès, ce connard. Imaginez. Bon, ça va, d'après ça, pour calmer la sauce, pour pas qu'il y ait des plaintes, tout ça. Les CRS, ils ont eu interdiction de venir à Vénissieux, et plus particulièrement aux Minguettes. Mais ils ont laissé passer 20, 30 ans, maintenant, bon, ils contrôlent pas, mais maintenant, ils osent quand même encore traverser les quartiers.
Bah après, par exemple, pour revenir sur l'expérience de Rock Against Police, parce qu'avec tous les trois, on a travaillé là-dessus, c'est pour le coup, appeler ces concerts rock contre la police, c'était aussi vraiment bien, comment dire, souligner justement le fait que ces crimes racistes et sécuritaires, quoi, ils avaient lieu. Mais aussi que c'était le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que avant ces crimes-là, il y avait les expulsions, il y avait la prison, il y avait le harcèlement quotidien, et il y avait justement le quadrillage de certains des cités dans lesquelles ils vivaient par la police. Mais peut-être que du coup on peut juste écouter l'édito du premier journal Tract qui replace un peu. Cette expérience.
Et qui a été du coup distribué pendant le premier concert.
Voilà, c'est ça. C'est en fait du coup le journal qui a été distribué au premier concert. Donc on est en avril 80.
À chaque concert Rock Against Police, un journal Tract est distribué. Édito du premier journal Tract, diffusé à Saint-Blaise le 19 avril 1980.
Pourquoi contre la police et non pas contre le racisme? Plus que le racisme, l'enjeu, c'est notre territoire social et l'émergence au niveau de masse de comportements de délinquance. Notre ennemi commun, notre oppresseur commun, c'est les flics. Par ces assassinats cow-boys de jeunes zonards, les flics dépassent largement les limites du racisme. Trop d'antiracistes en appellent aux flics contre nous. Pourquoi rock? Pas le rock des fils à papa, celui des hit parades. Mais bien celui des jeunes des cités, de la rue, immigrés et prolétaires français ensemble, qui expriment par la réappropriation du rock, mais aussi du théâtre, du cinéma, du parvis de Beaubourg, leur quotidien, leur vécu social. Le concert est gratuit, organisé par nos propres moyens sur la place publique. C'est un acte politique, un point de départ pour une nouvelle circulation de notre sensibilité créatrice des jeunes immigrés dans la zone des différentes banlieues.
Voilà, donc c'est vraiment cet édito-là, il vient en gros présenter cette expérience, enfin cette initiative, la Rock and Police. Et juste pour bien repréciser, c'est donc Kader qui meurt donc en février, donc Kader de Vitry. Et il va y avoir en fait une mobilisation qui va suivre. C'est-à-dire, en gros, les familles dans ce quartier-là se mobilisent. Il va y avoir une manifestation, des grèves dans les collèges, dans les lycées. Et l'expérience de Rock Against Police, elle vient après en fait cette mobilisation-là. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'était de se dire, effectivement, spontanément, les gens se mobilisent quand il y a des jeunes qui se font tuer dans leur quartier. Et en même temps, essayer en fait de créer un espace de rencontre et de circulation, parce que il y a plusieurs mômes qui se font buter et plusieurs personnes qui vivent les mêmes choses. C'est ça en fait qui est un peu le cœur de cette expérience de Rock Against Police. C'est l'idée d'essayer de créer un réseau qui permettrait en fait de faire des crimes racistes et sécuritaires un enjeu au niveau national.
Et donc de relier les différents quartiers populaires qui sont soumis à ces violences aussi. Du coup, comment se fait le lien avec ces différents quartiers ?
Après, je voulais peut-être juste, plutôt que de répondre d'abord directement à ta question, revenir un peu sur ce qu'on a entendu dans l'extrait là, où il est question de... Parce que c'est un peu un truc qui est, moi, je trouve important dans l'histoire de Rock Against Police, et c'est ce que tu disais aussi, ce qui me faisait penser, parce que tu disais, t'as parlé du racisme, et t'as dit aussi, mais c'est pas... Évidemment, c'est centralement les flics et la présence des flics dans les quartiers, mais c'est aussi l'école. C'est toute une série de choses qui dessinent toutes les contraintes qui pèsent sur les gens qui vivent au quotidien dans ces espaces-là. Et tu as parlé d'apartheid, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un bouclage un peu systématique de tous les moments de la vie qui fait que... c'est pour ça que dans leur tract, on va souvent trouver l'expression de répression sociale. Répression sociale à laquelle ils vont opposer ce qu'ils appellent aussi à l'époque délinquance sociale, c'est-à-dire des comportements très ordinaires, en fait, juste de vie, de survie, d'affirmation dans les quartiers à cette époque-là. Et donc il est assez important ce petit déplacement, parce que on le disait tout à l'heure, souvent dans les textes, même dans les deux qu'on a entendus, il y a cette question effectivement de comprendre tout ce qu'il y a derrière le tir d'un flic ou le tir d'un gardien. Et effectivement, souvent, c'est soit des anciens d'Algérie, soit le gardien de la cité Cousy qui a tué Kader, c'était un ancien flic par exemple. Mais en plus de ça, ils sont bien plus nombreux derrière le geste de la personne qui a tiré. Et par exemple, il était question de la première manif qui avait eu lieu pour Kader à Vitry. Je crois que c'est Mognis Abdallah qui rappelle ça aussi dans son livre. C'est que la banderole, il est sur la banderole, il était marqué « Ils ont assassiné Kader ». Et ce « ils », ce pluriel, il n'est pas du tout anodin, parce que justement, il désigne un peu toutes ces responsabilités. Et une des fonctions des journaux tracts, c'était aussi de vraiment mettre ça en visibilité. Et c'est pas juste un enjeu de compréhension pour eux, c'est clairement derrière, c'est un enjeu de lutte. C'est-à-dire que c'est pas juste pour comprendre, c'est de vraiment décrire comment c'est possible, comment on en arrive à cette situation délirante qu'un gamin de 13 ans se fasse shooter dans une cage d'escalier. Et ben, pour le comprendre, il faut... Enfin, pardon, pour s'y opposer, ensuite, il va falloir s'appuyer un peu sur toutes les ressources qui sont disponibles là, dans le quartier, au quotidien. C'est ce que disait Fun un peu sur l'organisation du concert de Vitry. Et c'est l'initiative rap, elle est un peu dans cette tentative de dire que si on veut vraiment s'opposer efficacement et frontalement à la présence policière, il faut le faire depuis tout ce qui existe et tout ce qui se fait déjà dans le quartier.
Pour préciser, par exemple, quand tu parles des ponts entre les quartiers, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu malgré tout que, bon, malgré la bonne volonté, parce qu'attention, il y avait des gens quand même de bonne volonté, hein, en dehors des gens impliqués au premier rang. Et on s'est rendu compte que la réponse, elle pouvait être que politique en même temps. On avait beau faire des pieds et des mains, il y avait quelque chose qui se programmait là à l'horizon. On parlait d'Europe, on savait que dorénavant on aurait peut-être un appui au niveau de l'échelle européenne, qu'enfin l'État français allait devoir faire attention à ce qu'il faisait. Donc on a misé un peu là-dessus et tout. À l'époque, bon, tous les autres partis, on a bien vu à quoi ça rimait et tout. Le seul parti qui nous semblait fréquentable, et en même temps parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'adhérents, et c'était un peu un ramassis de, comment on pourrait dire, mais je ne parle pas mesurativement de l'amour ramassis, mais voilà, ça regroupait plusieurs tendances, quoi. Donc après, on s'est branché avec les écolos, à l'époque. Ils faisaient rien du tout, donc après eux, grâce à eux, et ainsi de suite, par rapport, on a pu commencer à orchestrer même des rencontres au niveau de l'Europe, avec des Belges. Et là, on a commencé à fédérer un peu autour des quartiers et tout, et que dire que, parce qu'il faut savoir que avant ça, on n'avait pas le droit de créer d'association en étant résident ou de nationalité étrangère en France. On ne pouvait pas faire l'association des Tunisiens ou des Marocains ou des machins. Non, dès le moment qu'on pouvait être condamné pour association de malfaiteurs, dès le moment qu'il y avait un groupement de gens de nationalité étrangère.
Du coup, est-ce que peut-être que tu peux rappeler la situation particulière justement sur les expulsions par rapport aux troubles publics, etc.
Ça c'était grave. Ça, de toute façon, il faut parler aussi de la double peine à ce moment-là. Il y avait non seulement, comme je vous disais, les condamnations étaient arbitraires, les expulsions, n'en parlons pas. Il y avait des expulsions, c'était pas que de chez vous, c'était carrément du territoire et dans l'ignorance complète.
Tu peux rappeler ce que c'est la double peine, ce que c'était ?
La double peine, eh ben, c'était un système qui existe en France, qui, une fois que vous étiez condamné, que vous aviez effectué votre peine pour laquelle vous aviez été condamné pour un délit ou pas, eh ben, vous pouvez être sanctionné d'une expulsion du territoire français, carrément. Donc il y a des gens qui n'avaient jamais vu où leurs parents étaient d'origine, ils se sont retrouvés parachutés là-bas, sans rien, sans même parler la langue, sans rien. Et voilà, et après, donc, il y a eu une deuxième bataille qui était pour les faire revenir, la plupart de ces expulsés injustes. Déjà, même s'ils avaient commis des délits, c'était injuste déjà de les expulser parce qu'ils avaient déjà payé leur taf là, ici. Ils avaient déjà accompli leur peine. Et en plus, de les interdire, alors que toute leur famille vivait ici, quoi. D'abord, c'était une terre étrangère pour eux, malgré tout.
Et du coup, là, moi, ce qui me semblait intéressant et qu'on retrouvait aussi dans les documentaires Rock Against Police, c'est qu'on voit qu'il y a un verrouillage à la fois de toute la vie sociale, par la justice, par l'école, etc. Et aussi par les instances politiques. Et ce que tu dis aussi, quoi, l'impossibilité de trouver dans les partis en place des manières de s'organiser ou dans les formes, les maisons de jeunes ou quoi, quelque chose qui corresponde et qui pousse à se tourner vers l'extérieur.
Bah, même encore aujourd'hui, vous mettez en avant quoi, le fait que les gars, ils votent pas. Donc, quelqu'un qui vote pas, forcément, ça intéresse pas un parti politique. C'est tout. La question serait massa. Demain, on aurait monté une force visible. Si justement, contrairement à tout ce qu'on veut faire croire aux gens, on aurait raisonné en termes communautaristes, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais justement, nous, non. On n'a jamais mis en avant, on est ça, on est des jeunes de banlieue, arabes ou pas, ou machin, non. Nous, ça concernait toute la jeunesse. Et jamais on a fait un sorte de ghetto, machin. Et c'est pas faute que des gens venaient nous voir. Oui, mais ce serait mieux si vous dites là comme ça. Nous, on peut vous dire non. Non, on aurait peut-être raisonné en termes communautarisme. Au moins, c'était tac, bon, ok. On va leur donner des carottes à eux. On va leur donner à manger juste à eux. On va pas s'occuper parce que je vois pas pourquoi ils s'occupent de Thierry ou de Yves, que le pauvre, il s'est fait expulser de l'école, mais pour d'autres raisons de délinquance. Non.
Mais
ça n'a pas marché.
Par rapport à ça, ce que tu dis, c'est souvent dans les textes là, du journal Tract, l'analyse qu'ils font en fait pourquoi ces expulsions, pourquoi cette présence policière, c'est de dire en fait ce qu'ils veulent faire, c'est assez simple, mais ils appellent ça désertification de la vie sociale. C'est en gros que les gens, que les jeunes qui s'agitaient, qui faisaient plein de trucs, qui avaient des comportements offensifs, d'affirmation, et ça passait par plein de choses. C'était ça allait de la petite délinquance, mais aussi ça concerne aussi.
Ça va plus loin que ça. Ouais. Les cachets. Les réseaux de solidarité. Absolument. Qui existaient, c'était des familles. Ils ont détruit des tours entiers, des quartiers entiers, ils ont parachuté des mecs, ils les ont tous éclatés. parce qu'ils savaient que c'était impossible. Vous êtes là, moi je vais au charbon pour vous, vous, vous allez au charbon pour nous. On est indestructible. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Toi tu tombes, moi je te relève, l'autre il te relève et ainsi de suite. Il n'y a qu'un moyen, il faut les éclater, n'importe comment.
Mais par rapport à ce que tu disais
et
sur la politique...
Ils ont lésiné sur aucun moyen.
Mais justement...
Il y en a certains, je ne veux pas parler là, parce que franchement, ce serait trop... Après, on va partir dans des trucs incroyables, mais vrai. On va nous sortir la théorie du complot, mais bon, enfin bref. C'est pas un leurre non plus. Il y a des choses qui ont été faites qui étaient plus que graves. Mais bon.
Mais juste par rapport à ça, c'est sur la question que tu disais, politique. Il a bien fallu, on a pensé à un moment donné qu'il fallait en passer au niveau politique. Précisément, bon, après c'est une longue histoire, mais à l'époque de Rock Against Police, ce qu'ils disent, c'est que tout ce que tu décris là, les pratiques de solidarité qui avaient lieu et qui effectivement brassaient des composantes assez hétérogènes, pas que les jeunes, les parents, pas que les Arabes, pas que les Noirs, enfin tout, voilà, des composantes assez hétérogènes. C'est, et je suis en train de perdre le fil. Oui, c'est que ça, tout ce qui existait là et ce qui se développait à l'époque, c'était quelque chose de très politique. C'était une redéfinition, disons, de ce qu'on pouvait entendre par la politique. Et c'est ça, s'il y a un pari qui est fait à l'époque par le réseau Rock Against Police, c'est celui-là. Et ça, c'est pour ça que dans le premier journal Track qui distribuait leur concert, il y a un texte qui est assez emblématique, qui s'appelle les jeunes immigrés en histoire politique propre. Mais cette histoire politique propre, c'est pas du tout des histoires de partis, ni même d'associations. C'est juste des modes de solidarité qui existent au quotidien à la base. Et encore une fois, qui peuvent croiser différentes générations. Voilà ce qu'on a décrit, par exemple, la grève des maires sur Vitry, mais aussi des mobilisations dans les collèges et lycées, mais aussi dans les bahuts techniques, etc., etc.
Et parmi ces solidarités, parmi ces histoires de solidarité, tu en as parlé très brièvement, comme il y a aussi les histoires de solidarité par rapport aux luttes sur le logement. Parce que l'idée aussi de Rock Against Police d'être, on va dire, au beau milieu des cités, c'est aussi pour permettre justement de lutter, on va dire, sur des choses très concrètes, comme par exemple pour celles et ceux qui vivent en cité de transit à ce moment-là, qui sont en gros des bidonvilles en dur, d'essayer de changer les choses et de lier justement les histoires de crimes, de police, de violence aux conditions de vie matérielles dans lesquelles ils sont. Et du coup, pour on peut peut-être écouter l'extrait
numéro 4.
L'extrait numéro
4.
4.
Extrait du film Nanterre, mission accomplie, produit par l'agence Immédiat.
L'hommage à Abdenbi est unanime. À Gutenberg, les familles jurent sur le Coran de ne plus payer de loyer à la CETRAFA, société gestionnaire. Les jeunes, plutôt que d'offrir des fleurs, ont juré à la famille de continuer le combat d'Abdenbi jusqu'au bout.
À la cité, le comité animé par les jeunes éjecte le gérant qui passait le plus clair de son temps à fliquer les gamins et à intimider les parents. Le comité prend le relogement en main. Il enquête auprès de chaque famille pour connaître ses besoins. Il prospecte des logements vides et communique ses listes au pouvoir public.
Le comité se réunit en assemblée générale pour discuter des résultats obtenus et des nouvelles initiatives à prendre. Une coordination avec les autres cités de transit est mise sur pied.
Les Lascars ne veulent pas gérer la misère à la place de la CETRAFA. Priorité absolue au relogement.
Du coup, l'extrait qu'on vient d'entendre, donc c'est un extrait d'un film fait par l'agence Immédiat. On en reparlera peut-être en fin d'émission de ce qu'était l'agence Immédiat. Mais donc c'est un film qui a été fait à Nanterre par rapport à la lutte en fait d'habitants d'une cité de transit à Nanterre. Par rapport à Rock Against Police, en fait, le réseau Rock Against Police va organiser deux concerts à Nanterre, le premier en juin 81 et le deuxième en mai 82. Du coup, ces concerts vont se dérouler dans des cités de transit où il y a déjà des luttes pour le logement et surtout pour le relogement, pour sortir de ces cités de transit, des luttes assez fortes. Et pour préciser aussi, dans l'extrait, on entend le nom de Abdenbi Gemia. Donc c'est un jeune qui faisait partie du réseau Rock Against Police qui s'est fait tuer 5 mois après le deuxième concert, donc qui a été tué par un voisin de la cité de transit, un voisin qui habitait dans les pavillons et qui lui a tiré dessus. un soir. Et Abdelmadjid Gamia, donc il était non seulement protagoniste aussi des histoires de Rock Against Police, mais il était très 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 actif sur les luttes pour le relogement des gens en cité de transit, et c'était aussi quelqu'un qui dénonçait énormément tout le montage politique de cette espèce de psychose sécuritaire qui était fait contre les jeunes de cité, les jeunes de banlieue. Et il dénonçait donc très fortement cette psychose générale qui faisait que des mômes se faisaient tuer dans les quartiers. Alors je vais peut-être faire une parenthèse très courte pour réexpliquer vite fait c'est quoi une cité de transit. Dans le contexte de Nanterre, en fait, Nanterre, c'est une banlieue qui a été pendant très longtemps l'endroit où il y a un énorme bidonville qui s'est construit pendant les années... pendant toutes les Trente Glorieuses. C'était un bidonville qui a été habité par énormément de travailleurs immigrés qui se faisaient exploiter avec des très bas salaires. Et début des années 60, il y a une restructuration de Nanterre qui se fait. Le micro se tombe. Il y a une restructuration donc, de cette zone de bidonville, et les gens sont expulsés à coups de bulldozer et relouchés de façon imposée, complètement à l'arrache, dans des cités de transit ou dans des foyers Sonacotra. Ces cités de transit, en fait, pourquoi on dit transit, c'est qu'elles étaient prévues normalement pour que les gens y restent 6 mois minimum et soient ensuite relogés dans des HLM. Et ce sera absolument pas le cas. Il y a des cités de transit qui vont durer pendant plus de 20 ans. C'est des situations d'habitat extrêmement précaires. Il y a eu énormément d'incendies, les loyers étaient super chers. Et donc, assez vite, les gens ont commencé à s'organiser et à lutter pour leur relogement. Effectivement, peut-être on peut faire aussi une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y a eu des luttes similaires à Lyon. Et je ne sais pas si tu voulais nous en parler ou...
À Lyon, la technique, elle était simple. Il y avait des réseaux, on appelait ça des réseaux d'alerte. Chaque quartier, ils savaient qu'il y avait une famille qui était menacée d'expulsion. On avait la chance, ils avaient construit des super placards muraux. Ça fait qu'on laissait rentrer toute la sainte famille des expulseurs. Entrer, et à la fin, tous les placards, ils s'ouvraient. Pendant qu'en bas, il y en avait, ils étaient sur le point de crever les roues des camions de déménagement. Eux, ils voulaient pas d'histoire. On leur disait, bon, bah, remballez. Tout le monde remballait, et ainsi de suite. Problème, ça réglait pas la solution, mais ça empêchait l'expulsion. Une fois, ils ont quand même cherché à en faire une de force. Et ça a fini une méchante émeute en plein cœur du quartier Léo-Lagrange. Il faut savoir qu'ils se grattent pas, hein, les tirs de lacrymogène, ça rentre chez les gens. Quand ils bombardent en lacrymogène, c'est bon, hein, tout le quartier, que vous soyez d'en bas ou que vous ayez participé ou pas participé, tout le monde morfle. Et à l'époque, ils n'étaient pas trop regardants sur les produits utilisés. Je sais pas s'ils le sont maintenant, un peu plus, mais bon. On peut espérer avec l'Europe.
Et est-ce que les luttes, elles étaient centrées que sur le logement ou il y avait d'autres pans de...
Il y avait tout, il y avait même l'école. L'école, en vrai, c'était quoi? C'était... J'imaginais, on allait en classe dans des préfabriqués, 40. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, ça s'est monté dans l'urgence, tout ça. Traverser des terrains vagues pour aller à l'école. Il y a plein de gamins qui sont morts, de toute façon, rien que sur le trajet de l'école, c'était... Et pourtant, même les parents, ils étaient obligés de nous accompagner tout le temps. Tellement c'était dangereux, quoi. Bah ouais, il y avait des chantiers un peu de partout. Il y avait carrément des... Vous vous levez un matin et l'endroit où ils prévoyaient de faire des tours, c'était devenu un immense lac. Un lac artificiel. Prenez les palettes et voilà, journée bateau. Sauf que c'était en plein cœur d'un quartier. Il y avait des gamins qui se sont noyés comme ça ou qui ont été pris dans la boue.
Mais par exemple, pour par rapport à Nanterre, par exemple, il faut s'imaginer que en fait, c'est une ville qui est en train de changer, mais à toute vitesse, quoi. C'est-à-dire qu'avant, en gros, on avait besoin d'ouvriers, donc du coup, on tolérait les bidonvilles. Et par exemple, là où est mort là Abdenby, c'est une zone en fait qui est coincée entre l'autoroute, la Seine, l'université, et où précisément à cet endroit-là, ils cherchent à faire un nouveau quartier, en fait. En gros, les bidonvilles, etc., la mairie, en gros, PC, qui avait toléré ces habitats-là, n'en veut plus, et ils mettent vraiment la pression, en gros, sur les cités de transit, enfin là où les gens vivent. Et par rapport à ça, du coup, c'est vraiment, en gros, comment on va quadriller le quartier et comment, surtout aussi, on va faire en sorte que ces gens qui habitent là ne sortent pas, en fait, de la cité dans laquelle ils vivent. Parce que c'est ça aussi, les enjeux, ils sont aussi là, quoi. Parce que là, par rapport à l'expérience de Rock Against Police, on parle de jeunes. Alors, il y a des très jeunes, des 13, 14, 15 ans. On va dire la majorité des gamins, ils ont 13, 14, 15 ans. Et juste, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans leur quartier ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et il y a un super film qui s'appelle Zone immigrée, qui est un film qui a été tourné dans les années 80 à Vitry, donc avant même que Kader là, de Vitry meure. Et c'est un film qui a été fait par le collectif Mohamed. Et je vous encourage à essayer de le voir, ce film-là, parce que en fait, ce qui montre ce film, c'est tous les espaces de la ville, en gros, qui leur sont interdits. C'est la piscine, c'est le marché, et ils leur sont interdits parce qu'ils n'ont pas de fric, quoi. Ils n'ont pas de fric, ils peuvent pas rentrer dans ces espaces-là. Et du coup, il y a aussi un enjeu, quand on disait, voilà, sur les histoires de territorialisation, etc., c'est qu'il y a aussi un enjeu de se trouver un espace dans lequel on peut vivre, mais vivre au sens de se loger, mais aussi au sens de, ouais, on a envie d'être là. Et les concerts, d'une certaine manière, c'est aussi ça. C'est aussi se dire, on a envie d'écouter du rock, on a envie de s'amuser. Et c'est pour ça que l'épisode 1, qu'on l'a intitulé « S'affirmer tel qu'on est et pas tel qu'on devrait être », justement pour souligner ce truc-là, c'est-à-dire de dire, effectivement, ces enfants d'immigrés qui, à ce moment-là, n'ont pas, on va dire, de visibilité, et surtout, en fait, dont l'État ne veut pas. C'est-à-dire, après, ce serait long à déplier, quoi, mais c'est aussi un moment, en gros, de crise économique, et où, en fait, il y a des regroupements familiaux qui se font, et où on met la pression, en fait, aux familles. Parce que le gouvernement, l'État se dit, mais c'est quoi ces gens qui vont rester là, en fait ? Et on ne leur fait pas de place. Et le logement, ça participe de ça. C'est-à-dire, en gros, et ça, c'est vraiment, pour le coup, effectivement, un enjeu dans les luttes de l'immigration, mais depuis le départ, quoi. C'est vraiment l'enjeu du logement, c'est est-ce que on vous fait une place ici ou pas ? Et donc, là, précisément, la lutte sur le logement, c'est aussi plus largement une lutte pour avoir une place. Et après, par rapport juste à ta question précise, parce que j'ai fait un long détour sur les luttes autres que le logement. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des expulsions. Par exemple, c'est donc des gens qui se font expulser ou qui sont menacés d'expulsion. C'est-à-dire où, en gros, qui vont effectivement... Enfin, c'est aussi une période qui est assez terrible, quoi. Parce que, donc, on a raconté, les crimes racistes. Tu te fais tuer par ton gardien de cité. Tu vis dans des conditions de merde. Mais c'est aussi, aussi juste la peur, par exemple, de se faire expulser. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, comme tu disais...
Ou de vivre dans un garage avec toute la famille, ses gosses et tout.
Voilà, ou des jeunes, par exemple, qui se retrouvent, en gros, parce qu'ils sont de nationalité algérienne, qui vont se retrouver, alors qu'ils ont grandi, par exemple, en France, qui ne connaissent pas, on va dire, le pays de leurs parents, etc., qui vont se retrouver à se retrouver expulsés et à se retrouver en Algérie, quoi, alors qu'ils connaissent personne, qu'ils n'ont pas de lien, etc. Et donc, du coup, par exemple, il y a des réseaux qui vont se monter pour héberger, par exemple, les expulsés, pour faire en sorte mais ça va, par exemple, de l'hébergement à prêter une carte d'identité, à toutes ces choses-là, quoi.
Ça va encore plus loin, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens d'avoir un super appart, qui ont des super salaires et tout, mais il y a un racisme géographique. C'est toi, avec ta couleur de peau ou ton nom, il est hors de question que t'habites cet immeuble. Non, mais attendez, j'ai trop payé même un surloyer, si vous voulez. Ben non. Non, toi, t'es bon pour habiter là. On choisit où t'habites. On choisit pour toi où tes enfants vont à l'école. On choisit tout pour toi, même si t'as fait en sorte d'avoir les moyens, t'as travaillé toute ta chaîne de vie. Eh ben non, non, t'es encore à notre merci. C'est nous qu'on te dit où tu te poses, comment tu te poses, où t'envoies tes enfants à l'école. Bon, l'habillement, on te laisse, c'est pas grave, là, on peut rien y faire. Bon, vas-y, habille-toi comme tu veux. Donc du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affirment par le vêtement. Des squats, on en ouvre un père Gaille, heureusement. Mais bon, là maintenant, comme il n'y a plus le froid, ils vont pas se gratter. Maintenant, ils mettent tous des portes blindées. Maintenant, c'est devenu la mode. Après, pour le côté culturel, on a poursuivi la lutte, nous, par rapport à la misère culturelle dans les quartiers. On a profité de l'occasion où M. Jacques Lang, alors ministre de la Culture, était venu voir son pote Kéran, qui était maire de Bron à l'époque. On a envahi leur colloque et tout, et on a revendiqué ça, qu'il était temps de créer des cafés de cité et tout, qu'il y en avait marre, les mecs, ils n'ont pas accès à la culture, ils ne voient jamais de concert et tout. Et on a appelé ça les cafés musique, ça s'est bien fait et tout. Bon, le truc, c'est que nous, on avait essayé de dealer ça sans alcool, mais ils nous ont dit que ça ne pouvait pas être viable économiquement, donc il fallait forcément de l'alcool, mais bon, enfin bref. Et le problème, c'est que les quartiers... Il n'y en a pas beaucoup qui en ont profité, mais par contre, les trucs comme Ninkasi et machin, eux, ils sont venus, ils ont posé le logo, ils ont fait tout la totale. Eux, il y avait le staff derrière. Hein. Nous, ils nous ont fait un reproche parce que l'inauguration, on leur a fait faire une inauguration de salle de concert, attention, pas n'importe où, hein, la classe des classes, en plein Minguette en plus. On l'avait appelé la démo, justement, parce que le quartier en face s'appelait la démocratie, il allait être détruit. Eh bien, ils ont trouvé à nous reprocher que, ouais, une inauguration, c'est vous nous faites venir, nous, et après la population. Alors que nous, tout ce qu'on faisait, on le faisait pour la population. On le faisait pas pour eux. Si on a ouvert une salle de concert, ils ont les moyens d'y aller. Non, en plus, ils voulaient une inauguration à huis clos. Alors non, ils se sont retrouvés au milieu de tout le monde, et ainsi de suite. Voilà, mais c'est des trucs comme ça. Ils inventent des choses pour... Voilà, et du coup, ils nous ont fait combien ? 4 audits. 4 audits, 4 histoires incroyables mais vraies, il fallait qu'on disparaisse. C'est bon quoi, parce que tout le monde avait pris le relais. Et des gens qui avaient plus de moyens, qui avaient carrément les moyens d'ouvrir des brasseries. Mais bon, heureusement, on a beaucoup bénéficié aussi de la solidarité d'artistes. Parfois même des artistes qu'on connaissait même pas, qui traversaient le Canada, qui étaient là en représentation. Même les gens, ils tombaient sur le cul, la programmation qu'on avait, ils n'en revenaient pas. Parce que les mecs, voilà, ils savaient d'où notre parcours, ce qu'il était et tout, et ils venaient pas là pour un cachet. Hein. Franchement, ils venaient ni là pour le cachet, ni pour manger chez Bocuse. Hein. Ils venaient parce que, voilà, à l'ancienne. Retrouvaient au milieu de l'ascar, ils allaient dans le quartier, ils apprenaient hop, chez des gens. C'était pas, ils venaient, ils faisaient un concert, ils se tiraient, quoi. Non, non, ils partageaient un moment de vie avec nous, quoi.
Et alors, pour revenir, pardon, pour revenir sur la question du quartier, on peut peut-être, et de la territorialisation, et également de l'idée de coordonner ces différents quartiers, les luttes qui s'y mènent, on peut peut-être entendre un entretien fait avec Tim, et qu'on entend dans la série.
Comment tu t'appelles ?
Tim, deuxième mode banlieue de Lyon.
Et toi ?
Dida.
Vous êtes venu de Lyon exprès pour le concert de...
Genre Rock Against Police, ouais. Ouais, parce qu'on avait déjà pris contact avec eux depuis un bout de temps déjà. Et on avait éventuellement parlé de coordination entre Lyon et Paris. Et puis on essayait de voir un peu ce qui se passait ici.
Oui, c'est un peu la raison pour laquelle je suis venu également.
Mm-hmm.
Et quel est ton sentiment ?
Par rapport au concert ?
Oui. Est-ce que tu crois que ça peut déboucher sur une coordination nationale des groupes ?
Disons que c'est pas du fait du concert ça va déboucher. C'est surtout le fait de se voir déjà plus souvent. Parce que nous aussi sur Lyon, bon, on fait pas mal de trucs par rapport aux banlieues, la justice et tout. On a essayé de mettre en place des collectifs avec des avocats. Donc on a le même procédé principe que RAP. Ouais. Et puis c'est surtout sur un boulot de terrain, surtout que ça va se déclencher. C'est pas si tu veux par rapport à des rassemblements comme ça, qui sont assez bons, sympas, vont se retrouver tout, mais disons que je mise plus sur un travail de terrain qui sera au coup par coup d'abord. Enfin, je veux dire, s'il y a quelque chose qui est déclenché, ou s'il y a par exemple, je sais pas, par rapport au logement, un truc très très concret, imaginons que voilà. Là, ça peut déclencher, puisque, tu vois, c'est pour ça, je veux pas dire qu'il faut négliger les rassemblements et concerts, ça fait partie de moyens. On peut pas dire que ça va déboucher sur ça, ça. Mais ça nous permet déjà de rencontrer des gens, nous. Et puis, au niveau information, c'est vachement important. Je trouve que c'est le plus important de dire, voilà, nous, sur Lyon, il se passe ça. On s'organise vachement aussi. Et il y a une solidarité qui existe. Les gens, ça les pousse aussi à avoir confiance en eux. Ça, je veux dire, c'est fondamental d'avoir confiance en soi et de dire, ça va déboucher sur quelque chose. Donc, au niveau information, c'est un grand impact. Et puis, c'est vachement important pour nous de savoir ce qui se passe, si tu veux. Bon, c'est une coordination informelle au départ qu'il faut organiser. C'est le plus gros à faire, quoi. Puis, on va essayer d'en discuter après.
Pas grandi dans le barrio.
Du coup, l'extrait en fait qu'on vient d'entendre, c'est le seul extrait en fait sonore, enfin la seule archive sonore qu'on a d'un concert de Rock Against Police. À ce moment, il n'y a aucune archive des concerts qui étaient enregistrés. Et donc, c'est Bernard, un des protagonistes de cette histoire, qui interviewe pour une émission de radio Tim et Gida des Armats de banlieue. Voilà.
Les Armats de banlieue au Parlement européen, quand même, Gida. Hein. C'est j'y vrai. Suis, j'y reste. On a mis la fumée avec ça.
Juste comme on a un peu explosé les temps, on voulait revenir quand même très rapidement sur les histoires de coordination. Donc l'idée de ces luttes de logement, notamment celles qui ont été menées à Nanterre, elles ont été menées de façon très frontale, avec cette idée de pas du tout être ni dans la représentation, ni dans la représentation institutionnelle. L'idée, c'était d'agir vite et par les propres besoins, leurs propres moyens. Donc très vite, il y a des enquêtes qui ont commencé à être menées sur tous les logements vides, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en fait, le parc HLM de Nanterre, il est blindé de logements vides. Juste, ils ne veulent pas les donner aux familles dites à problème. Il y a l'histoire du 15% du seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on on disait, en gros, il ne faut pas plus de 15% d'étrangers pour qu'ils soient assimilables. Après, ce n'est pas sans rappeler non plus les discours sur la mixité sociale aujourd'hui sur les logements HLM. En gros, donc, il y avait des logements vides, des HLM vides, qui refusaient d'être attribués pour ces familles-là. Donc il y a eu des grosses luttes, notamment par des grèves de loyers, par des réquisitions de logements vides, des squats aussi, dans d'autres, moins à Nanterre, plus à Vitry. Et il y a aussi eu toute une démarche, en fait, d'essayer à la fois de lutter très très concrètement sur les besoins et de façon autonome sur les besoins de chaque groupe de lutte. Et en même temps, il y avait cette idée de se coordonner, puisqu'il y avait des situations, on l'a vu, très similaires à Lyon et dans plein d'autres banlieues. En tout cas, la coordination sur les cités de transit qui est partie de Nanterre a fini par se coordonner avec 4-5 banlieues autour de Paris. On peut dire aussi, par rapport à cette histoire-là, quand on posait cette question de c'était pas que des luttes de logement, effectivement, c'était toujours lié, particulièrement à Nanterre. C'était, pour la cité de transit de Gutenberg, c'était fortement lié à l'histoire d'Abdelbi Gemia, de son meurtre. Et le suivi politique et judiciaire de ce procès, qui a abouti en 85 à la condamnation à 12 ans ferme en fait, du meurtrier, ce qui était très exceptionnel à l'époque, qui est une condamnation. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais surtout, en fait, cette mobilisation politique autour de ce procès a donné aussi naissance à la création en fait, de l'association des mères et des familles, et qui était une des premières associations qui essaie de coordonner les luttes contre les crimes policiers et racistes.
Et juste pour préciser par rapport à ce que tu dis, la mort d'Abdenby, en fait, juste en fait, quelques jours avant, à Lyon, il y a un garçon donc, qui s'appelle Waïd Hachichi, qui est tué, en gros, parce qu'il est accusé de vouloir voler une BMW. Et ce garçon-là, il a 16 ans. Et c'est un jour avant en fait que ça se passe. Et du coup la coordination, enfin en tout cas l'association des maires des Folles de la Place Vendôme, etc. C'est aussi en fait cette rencontre-là qui se fait entre la mère de Waïda Chichi et la famille d'Abden Bigemia. Et c'est vraiment cette idée de essayer en fait de se soutenir quoi mutuellement quand il se passe ça, de s'échanger on va dire des formes aussi on va dire d'expertise sur les histoires de suivi judiciaire, parce que par exemple les gens qui sont autour d'Abden Bigemia à ce moment-là ont déjà connu en fait une expérience de procès avec le procès de Kader de Vitry, où le gardien donc qui a tué le gamin a pris 5 ans avec sursis, et où en fait par exemple à ce moment-là le juge dit quand même dans cette histoire il y a quand même 3 victimes. Alors 3 victimes, c'est donc le gamin qui est mort, mais c'est le tireur et sa femme. Et du coup, et tout est nivelé. Et donc du coup, il y a aussi, on va dire, cette expérience-là de « Ah, en fait, la justice, ça se passe pas, non, c'est pas, on va dire, c'est pas si simple que ça, et qu'il faut batailler sur ces questions-là. » Et donc du coup, il y a la coordination, elle se fait, c'est toujours la même chose, quoi, sur des choses très concrètes, et en même temps aussi sur des choses politiques qui est là très clairement qui est en France il y a des jeunes immigrés qui vivent en banlieue qui se font tuer et il faut réagir par rapport à ça et notamment demander des choses précises pour essayer aussi de gagner quoi que les choses elles bougent quoi et par exemple c'est demander le désarmement en gros ce qu'ils appelaient le désarmement des beaux, des tontons flingueurs, ou en tout cas qu'il n'y ait pas des fusils en vente libre dans les supermarchés. C'est demander à ce que, par exemple, les associations de quartier puissent se porter partie civile, parce que ça, c'est pas non plus, c'était pas du tout acquis à ce moment-là. Et c'est demander toutes ces choses-là, quoi. Et cette expérience-là de rencontre et de solidarité mutuelle, on va dire, elle va ensuite, bien après, donner lieu à toute l'histoire, en fait, et aussi des collectifs Vérité et Justice.
Même le système judiciaire, il était biaisé. Hein. Nous, à Lyon, c'était une misère. On ne pouvait pas faire appel, parce qu'à l'époque, c'était Carlioz, magistrat, à la cour d'appel. C'était simple, hein, dès qu'il voyait des plaignants arabes, « Bon, allez, vas-y, faites rentrer les arabes, là. » Alors, hop, il prenait toujours double. Hein. Il faisait toujours ça, multiplié par 2, hein. Ça fait qu'après, même les mecs innocents, pas innocents, faire valoir leurs droits, les mecs, oula, laisse tomber, je fais pas appel, c'est Carlioz, je vais me retrouver inculpé, doublement inculpé pour quelque chose que j'ai pas fait, laisse tomber. Ah, heureusement, il a fallu des émeutes dans les prisons, Saint-Paul, Saint-Joseph, que les mecs remontent plus et tout ça, des pues. Le feu, voilà, le feu, à chaque fois, il faut mettre, chaque fois, il faut le combat, et comme... ils ne veulent pas entendre raison, et ben ça conduit à des blocages, à des situations. Alors qu'à la base, ils auraient écouté d'entrer les plaintes et faire porter la voix des gens, ben on n'en serait pas là.
Radio Canut 102.2.
me suis dit, il faut que ces histoires, on les raconte, et il y a l'urgence, on est dans la lutte. On se dit, il faut qu'il y ait des traces de ça. La première fois que j'ai tourné dans la cité là, on sortait d'une réunion où moi j'avais fait la remarque qu'il y en avait marre de ces caméras de journalistes qui débarquent et qui donnent toujours des images clichés, quoi. Et donc je disais, il faut les interdire de rentrer. Et il fallait donner notre propre point de vue à travers les images qu'on produisait nous-mêmes. Alors les gars, ils me rigolaient, ils disent « t'es bien gentil Samir, mais avec quoi ? T'as même pas une caméra ? T'en as une caméra ?» Je dis « non, j'ai pas ». Bon, on sort de la réunion comme ça, et puis un peu plus tard dans la soirée, il y a un Lascar qui arrive avec une caméra tombée d'un camion. Ça veut dire une caméra trouvée quelque part. Et il fait comme ça, il y a quelqu'un que ça intéresse, chercher à la refourguer, quoi, à la vendre. Puis là, il y a le comité, les copains du comité qui font « Écoute, la caméra est réquisitionnée. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec une caméra, alors que j'avais pas d'expérience, et que les copains ils me disent « Puisque tu as ouvert ta gueule, puisque toi tu as toujours rêvé de faire du cinéma, vas-y. » Donc très vite, on tourne, et puis après, c'est pas juste pour se regarder dans le miroir et puis se faire plaisir. Bien sûr, dans la cité, je tournais, on faisait des séances de projection des rushs, ça durait des heures et des heures. Et puis on rigolait, tout le monde faisait des commentaires. Il y avait des gens qui prenaient pour des critiques de cinéma. C'est marrant. Mais évidemment, très vite, il a fallu se dire, bon, tout ça c'est bien joli, mais maintenant il faut montrer, il faut faire circuler. Et donc il fallait apprendre à monter. Comme ça qu'on a fait très vite un premier journal qu'on a appelé Video News, le magazine des Lascars, dans lequel tu avais un espèce de journal de lutte au pluriel, qui était le principe de réunir ensemble différentes histoires de lutte dans des points différents et de les faire circuler au niveau national pour avoir un public, mais aussi, surtout, pour faire décoller les luttes ailleurs. Et donc, du coup, ça a aussi contribué à ce que le mouvement fasse tache d'huile. C'est pas un film ou un document filmé qui va, en soi, être l'élément qui déclenche une lutte. Non, c'est comment les gens s'en servent. C'est qu'en fait, il y a la pratique de filmer ou de documenter avec, par exemple, un micro, comme ce que vous êtes en train de faire, ou d'écrire, ou de faire de la photo, si elle est pas, elle se fait pas en même temps qu'une démarche, disons, militante, dans le sens d'organiser, ben, il se passera rien. C'est pas les films en soi qui font que les choses bougent.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, en direct de l'atelier des Canulars. Et pour resituer, on fait un retour sur l'émission, la série de documentaires Rock Against Police, en présence de réalisateurs, réalisatrices de cette série, et aussi en présence d'un témoin, d'un acteur des luttes qui sont déroulées à la même époque dans les années 80, au Minguette, au sud de Lyon.
Donc on vient d'entendre Samir, là, dans un extrait du dernier épisode qui conclut un peu la série radiophonique. Et on n'est pas du tout, enfin, on est tout près de ce qu'on vient de raconter précédemment, parce que Samir, il a été, comme il le raconte là, il était inscrit pleinement dans la lutte sur Nanterre. Et c'était un très proche ami, camarade d'Abdenbi Gemia. Et d'ailleurs, ils avaient tous les deux pour projet de faire du cinéma, l'un comme l'autre. Voilà, donc Samir a continué à faire ça et on voulait en repasser par là pour réévoquer ces histoires dont tu as parlé toi tout à l'heure, Lagdar, des histoires entre guillemets culturelles, même si c'est certainement pas le mot qui convient, parce que quand on écoute Samir, on comprend bien que là, la vidéo, mais c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour l'écriture, ça devient un outil quoi, très concret pour s'organiser, pour lutter. Et là, bon, il y a l'exemple de Video News où on comprend bien que la vidéo, elle devient vraiment l'outil qui vient accompagner et rendre possible aussi les phénomènes de coordination dont on parlait juste avant.
Et avec cette histoire que voilà, ce qui importe, c'est pas le film en soi. Ils ont exactement les gens du réseau rap, ils ont exactement la même expression pour ce qui est des concerts et de la musique. Toujours, ils rappellent, voilà, la question c'est pas d'organiser des concerts pour faire des concerts. La question c'est de faire des concerts pour organiser des rassemblements, pour que les gens se rencontrent, partagent leurs expériences et à partir de ces rencontres arrivent à bouleverser réellement la vie quotidienne dans le lieu où ils sont obligés de vivre. Et il y a une autre expression qui raconte un peu cette idée-là. C'est souvent utilisé par, on l'entend Mognis dans les montages, Mognis Abdallah l'utiliser. C'est celle du politico-culturel, c'est-à-dire que pour parler de l'expérience de Rock Against Police, il disait voilà, c'est une expérience politico-culturelle. C'est-à-dire on peut pas du tout couper l'un de l'autre. Et d'ailleurs le débat de savoir à quoi si la musique ça sert pour la politique ou l'inverse, c'est un débat qui devient totalement stérile dès lors que les choses, elles viennent exister dans le tissu social dans lequel sont pris les gens, dans le quotidien. Et l'objet des concerts, c'était ça, hein, c'était de dire, voilà, la musique, c'est pas rien, c'est le langage principal de la jeunesse métropolitaine aujourd'hui. Et d'ailleurs, les groupes de musique ont bien souvent remplacé les slogans politiques sur les murs. Et c'est le langage qui va le plus vite pour communiquer les expériences. Et du coup, je t'ai regardé, j'ai perdu le fil d'où je voulais arriver pour la conclusion, mais
parce que moi, je voulais justement rappeler aussi qu'en même temps, même l'outil visuel dont tu parlais, là, il y a eu des choses qui ont été faites vraiment super classe, quoi, par les Lascia, avec d'autres, des professionnels et tout. Il y a eu d'ailleurs la création d'Escalimages, qui ont réalisé des reportages sur la banlieue, qui ont aidé à la formation des assises des banlieues, on a fait les affiches nous-mêmes, voilà, quoi. Il y avait en même temps de la qualité, et tout le monde y mettait la main à la pâte, quoi. Et pareil, au départ, c'était des tissus associatifs, d'ailleurs, les mecs, ils étaient tellement bons que, de toute façon, il y en a certains qui ont été recrutés chez FR3 ou France 5 pour faire des reportages. On parle de Mourad, entre autres, donc il se reconnaîtra, là.
Mais tu l'as dit tout à l'heure.
Alib, et il y avait un paquet de gars, quoi, et ça s'entrecroisait, quoi.
Il y avait aussi cette idée très très forte de sortir du discours d'emprunt, c'est d'en avoir marre qu'on parle à la place d'eux, qu'on soit vraiment toujours dans la représentation, soit du délinquant, etc., ou du pauvre petit banlieusard dont il faut s'occuper. Il y avait vraiment cette volonté, à travers justement la réappropriation de tous ces outils de communication et de création, de réaffirmer une parole autonome, singulière, qui soit réellement issue des gens qui vivent ces histoires-là. Et ça, c'est aussi très très fort tout au long de l'expérience Rock Against Police. Et les journaux tracts aussi, c'est... Il y a aussi cette dimension-là, c'est que, quelles que soient les compétences de chacun, bah, que ce soit par les dessins, il y a des super beaux dessins qui ont été faits notamment par Lassiou, mais par d'autres gens. Et il y avait vraiment cette dimension-là de reprendre la parole et de prendre la parole par eux-mêmes, pour ce qu'ils sont.
Surtout que la plupart des expériences avec les médias, les journalistes, ça a toujours été des choses abracabrantesques, quoi, montées de toutes pièces, des scénarios incroyables, mais vrai, quoi. Ils avaient tellement insisté pour voir un rodéo, parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça, des gens qui faisaient... Qu'on leur a dit, il n'y a pas de problème, on leur a donné rendez-vous au bas de la tour et tout, hop, hop, on leur a dit, installez-vous, la caméra, ça va venir comme ça, la voiture et tout. Et d'un coup, bon, ils voyaient arriver une BMW et tout, sauf que c'était une téléguidée. Allez-y, filmez, éclatez-vous. À la manœuvre, il y avait Bozo, je peux dire son surnom, tant pis. Il y avait Bozo, et hop, on s'éclatait, on leur a dit, voilà ce qu'on a comme véhicule pour faire des... On est comme des gosses, on s'amuse avec des voitures téléguidées comme tout le monde.
Mais ça, c'est précisément, ça, c'est ce que l'histoire que tu racontes, c'est ce que Mounsi il appelle la version sous-titrée. Il dit ce qu'on voulait, c'est passer en se réappropriant justement les outils, c'était d'arriver à produire la version originale de notre propre histoire et de quitter la version sous-titrée, c'est-à-dire celle du flic, celle du journaliste, celle du sociologue, celle de l'éducateur, celle du juge. Enfin, il y en a beaucoup sur la liste. Et voilà. Et après, juste, je voulais ajouter
un mot. Parce que le pire, c'est que même s'ils partent dans une bonne intention, ils n'ont pas le décodeur Antiope. Pour eux, c'est de la science-fiction. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ils n'ont pas les outils pour décoder ce qu'ils voient. Donc ils décodent avec leur petit truc de journaliste. Bien, ouais, ok, dans un contexte normal, oui. Si on peut dire le mot normal, mais dans un certain contexte, il faut avoir certains codes, il faut avoir certains décodeurs, et puis comprendre, quoi.
Et après, ce qui est, mais tu l'as dit hein, déjà beaucoup, mais c'est que ce qui est fort quand sur ces histoires-là d'expression ou de subjectivité ou d'activité culturelle, c'est qu'on s'aperçoit bien que c'est vraiment pas un truc en plus. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une place qui n'existait pas pour la plupart de ces jeunes, etc. Et bah souvent. Dans ces histoires d'expression, que ce soit la musique, l'écriture, la vidéo, ça devient le moyen de créer cet espace qui n'existe pas. Et du coup, ça donne souvent des choses qui sont, comme tu disais, des trucs super forts, que ce soit dans les films dont il a été question, par exemple du collectif Mohamed, ou alors des textes, on va les écouter pour finir l'émission, de Jamel d'Argenteuil, qui était un gars du réseau Rock Against Police, qui s'est suicidé. Voilà, il y a une force dans ces textes qui est une urgence qui est vraiment liée à cet enjeu vital. Quoi. C'est pas du tout le surplus de l'imaginaire ou de ce qu'on entend en général par la culture. Là, c'est vraiment soudé quoi, aux questions de nécessité, aux questions du quotidien. Et voilà, il a d'ailleurs Jamel d'Argenteuil, il a une jolie expression. Il dit l'immigration c'est une chose, son expression c'en est une autre. Et ça veut dire que quand on lit les textes, c'est qu'il y a aussi un refus de se cantonner dans cette image de l'immigré ou du prolétaire, mais justement d'inventer, d'ouvrir un espace de recherche, d'expérimentation pour inventer sa propre identité ou, comme il disait, une forme d'identité spécifique. Il y a toute cette réflexion autour de la culture autonome immigrée spécifique à l'époque, et c'est ça que ça veut dire. C'est pas du tout une idée sociologique de l'immigration, c'est juste de, comme on disait au début, là, c'est une formule qui venait de la troupe de théâtre Week-end à Nanterre, c'est effectivement s'affirmer tel qu'on est et pas tel qu'on devrait être. Et ça, c'est pas du tout un énoncé politique, quoi, purement politique.
Nous, la plus grosse crainte, c'est qu'après tout ça, le pire, c'est que les jeunes, ils disent, avec tout ce que vous avez fait, vous en êtes encore là, parce que socialement, ils nous ont dégommés, de toute façon. Hein. Parce que la moitié des gars, ils sont au chômage, au RSA, ou n'importe quoi, quoi. Et le problème, c'est que ça les a méchants découragés, quoi. Donc maintenant, ils sont rentrés dans une logique où chacun... Il y a moins de solidarité, et puis c'est chacun sauf qui peut, quoi. Ils en sont arrivés à du sauf qui peut. C'est malheureux, quoi, parce qu'il y a plein de potentiels qui sont comme ça, là, gaspillés dans le vide, quoi.
Et du coup, là, on va vous passer un extrait de ce que vous parliez, donc journal d'un immigré de Jamel, un texte qui est d'une puissance assez incroyable en termes de création et de lutte.
Et juste avant, une reprécision, donc on l'a dit au début, en fait, tous ces textes formidables aussi dont on parle, etc., sont disponibles en version numérique sur le blog de Rock Against Police dans l'onglet Archives. Et voilà.
Et donc le blog, c'est http://rapdocsonore.org.
Je suis un bico des villes. Nationalité, immigré. Adresse, le soleil, dehors dans ma tête. 1958, guerre d'Algérie, mon père FLN entre clandestinement en France, débarque à Argenteuil. De Gaulle débarque à Paris. Des morts, la rage de survivre, une révolution, de celles qui font le tiers-monde. Ma mère paumée, mon grand frère bébé. 59, my father est installé. Encore des morts, toujours des corps mutilés, la torture. Massue, Salant, maman immigrée met au monde de l'ordure et de l'horreur deux petits frisés. Il crie encore longtemps. C'est l'hiver et je nais. La troisième, c'est la chevauchée fantastique. Love me tender. Un prof qui me questionne lit mes textes. Me décomplexe un peu, mais m'emmerde aussi. C'était un vieux salaud, je crois. Il nous faisait voir ses diapos sur la Thaïlande, à nous qui ne connaissions que la zone urbaine prioritaire. Merde alors. Le redoublement. Catherine encore. PEPC admis. 78. L'année folle. L'année du « Regardez-moi, j'existe ». La terminale, subversion à plein tube au lycée, affiche à outrance. Diverses manifs sur Argenteuil, la fête, manif close croissant, les autonomes. la LCR du lycée cherche à m'intégrer. Camarades lycéens, camarades immigrés. Et basta. Le printemps, le bac, la pelouse. Benoît Iceberg. Expérience contre-culturelle, fête, rock, jazz, expo, journal, déficit, on se casse le nez. Week-end à Nanterre. Immigrés, immigrés, émergent. Prise de conscience, découverte de Mounsi. Y en a marre de les entendre parler de nous sans même nous regarder.
Tous ces petits mal assis en roue arrière sur les chaises et les tables. Des portes étrables dans les cartables. Tous ces mômes circoncis que les grands esprits ont rendus détestables. Poussent comme ils peuvent sur des champs de sable. À la soif, à la faim, à l'abri de rien. Au culot, à l'usure, au hasard des murs. Dans la fièvre électrique de leur taux d'hormones. Dans l'éloignement de leur mère ou sous les yeux d'un drone. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous, une coulée de mazout avant que les arbres repoussent. Il y a la caverne et ses théâtres d'ombre. Et puis les miracles de la loi du nombre. Et oui, tous ces petits pressés et furieux. Tous ces pense-vite nombreux, nombreux.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir, ils sauront quoi dire. Une fois en âge de choisir. Entre le chômage de masse et les vrais liasses. Moisir sur place. Près d'un centre de loisirs ou d'une grande surface. Les gyrophares en pleine face. Génération smartphone, bac pro, réseaux sociaux. Retrouvée morte sans casque sur une mini-moto. Ou derrière la porte d'un transfo. La goutte de trop, tenez-vous prêt pour la suite. Le vivre ensemble reste un mythe. Secret dans la haine des schmites. J'ai des pistages précoces, des enfants à risque. Affaire à suivre comme une page de plus. Au chapitre des lois Karcher. Après caillassage de bus. Parce qu'en germe dès le fœtus. C'est juste aujourd'hui, demain. C'est juste tragique, c'est juste hors du commun.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Quand au printemps ne fleurissent que les peines de placard. Scolarité bousillée pour les trois quarts. Comment viser la réinsertion si ce n'est du bout d'un Glock. Ce qui n'est pas forcément du goût d'un proc. Malheureusement c'est ce futur qui vous regarde dans les yeux. Du fond d'une cellule où le matelas a pris feu. C'est assez con pour croire qu'ils vont se contenter de peu. Du peu d'espoir investi dans un sachet de peu. Ouais sa plante fait pousser, ça réinvente les colcoses. S'ils se battent, ils ne savent plus pour quelle cause. Des Yvelines à la Seine-Saint-Denis. Quartier sous cadenas. Attaché comme un flic à son café Calva. Et ce n'est que l'échauffement. Tu m'étonnes que ça grelotte. Dis-moi ce qui vient plus froid que l'acier d'une paire de menottes. Fausse note ou pas, toujours cette même musique. Électronique comme un bracelet sous la tunique.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous.
Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir.
Affamez-les, enfermez-les.
Tous ces mômes, ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire.
Bientôt 40 ans que les concerts rock d'Innspolis
sont nés. Tous ces mômes vont grandir.
Ils sauront quoi dire.
Ils sauront quoi dire.
Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les.
40 ans donc qu'ils sont nés dans les quartiers populaires de quelques grandes villes françaises.
Depuis, si on écoute sans doute un peu moins de rock dans les cités, la misère, le rêve de percer, le désœuvrement, la débrouille, le harcèlement policier reste le quotidien de beaucoup de jeunes. 40 ans après, au nom du maintien de l'ordre, toujours autant de morts sous les balles, les roues et les coups de la police. En moyenne, on compte depuis 10 ans plus d'un mort par mois. En général, un jeune homme de quartier populaire dont la famille vient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Face à cette violence organisée, largement blanchie par la justice qui condamne rarement les agents de police, si ce n'est parfois à du sursis, les familles qui ont perdu un des leurs s'organisent autour de comités vérité et justice. Wissam El Yamni, Amin Bentoutsi, Adama Traoré, autant de noms propres qui résonnent. Autant de noms qui témoignent des violences policières dans les quartiers populaires. Pas des bavures, mais au contraire une violence quotidienne, régulière, comme le nombre de morts enregistrés tous les ans sous les coups de la police. Parler à partir du quartier pour rétablir la vérité, sortir du quartier pour exiger que justice soit faite, se réunir entre comités pour visibiliser ces combats et rendre ces violences moins anodines et normales, voilà tout l'intérêt de ces comités. Comme récemment, c'était le 10 décembre 2016, trois jeunes passent un bout de nuit ensemble à Vénissieux. À 4h du matin, l'un d'eux, véhiculé en scooter, décide de ramener ses amis. Il est pris en chasse par une voiture de la police qui le pare-choque, une technique hors la loi mais couramment utilisée par la police dans les cités pour arrêter un véhicule. Le scooter finit contre un mur et Mehdi, le conducteur, décède. Les survivants témoignent et la famille et les proches créent un collectif Vérité et Justice pour Mehdi, pour que ce meurtre ne reste pas classé comme un accident de la circulation, comme le voudrait la police. On écoute les témoignages.
Méga Cambi.
Je m'appelle Mahmoud Hassan.
Reportage.
On était posé, tranquillou, père entre amis et tout. Il était vers les alentours de 4h, 5h du matin quand on s'apprêtait à chacun rentrer chez nous. On était trois, sur un scooter. Malheureusement, on a été pris en chasse par un équipage de police. Je me souviens qu'ils étaient bien derrière nous. Et mon collègue, mon ami, qui était juste derrière moi, lui sentait le pare-choc de la voiture. Il était collé à la plaque du scooter. Ils étaient vraiment collés. Bah, cette course, ça s'est fini. À la fin, on a fait un accident et, très, 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 très grave qui a entraîné une mort.
Vérité pour Mehdi ! Justice pour Mehdi !
Voilà, moi, je m'appelle Ahmed. Je suis le beau-frère de la personne qui est partie. On a eu, voilà, j'ai su ça à 8h du matin. Je suis parti sur les lieux de l'accident, le jour même. J'ai vu des débris du scooter. J'y avais posé un bouquet de fleurs. On l'a enlevé. Il y avait une patrouille de police municipale. Il y a une patrouille de la BAC qui tournait à côté. Alors que c'était un lieu, voilà, on était là pour se consoler comme on pouvait. J'ai vu des articles comme Radio Espace. Ils ont mis une photo où c'est une moto, alors que c'est un scooter. Ils ont dit comme quoi que c'est eux qui sont rentrés dans la police, les jeunes qui étaient sur scooter, que c'est eux qui sont en faute. Donc voilà, et c'est pas normal. Je me suis permis de les appeler pour leur dire que ce qu'ils ont mis, c'est pas vrai. Ils m'ont dit que c'était la police qui leur avait donné ces versions-là. Je leur dis c'est pas la vraie version. Et nous, on le vit mal, que ce soit la famille, les proches, sa femme. C'est très dur.
Je suis Yamina, la sœur de Mehdi. Je suis arrivée à Grange Blanche, donc on m'a fait attendre pendant une bonne heure, je pense. Ensuite, il y a un médecin qui est venu m'expliquer que mon frère était décédé. Et j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit, que j'avais je ne sais pas combien de policiers dans le couloir. Donc le commissaire nous indique que suite à un essai de contrôle, donc mon frère est décédé, qu'il n'y a pas eu de course poursuite, qu'il n'y a pas eu de gyrophare, qu'il n'y a pas eu de mise en danger, qu'il n'y a rien eu du tout, en gros qu'il est mort tout seul. L'IGPN n'a pas été mandaté sur ce dossier, donc c'est la brigade de la route du 3-6 qui a été. Donc pour eux c'est un banal accident de la route.
Je suis la compagne à Mehdi. Marcus Berdier, quand on est parti pour récupérer ses affaires, ils nous ont fait attendre une demi-heure en bas. Et on ne comprenait pas comment ça se fait, alors qu'ils venaient d'enlever la scellée sur Mehdi. Du coup, nous, on voulait le voir le plus vite possible. On leur a demandé comment ça se fait. Donc là, il nous a dit qu'il était au téléphone avec le procureur. Donc c'est pour ça qu'il était sur notre affaire. Donc moi, je lui ai gentiment dit qu'on ne savait pas, mais vous auriez pu nous le dire. Et bien, il m'a dit, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. On s'est fait limite insulter, en fait. Moi, enfin voilà, on en dirait des enfants dans une école qu'on engueulait.
Ils essayent de tout mettre à terre pour que la famille lâche, dit ouais, c'est trop long, mais nous, on lâchera pas. Donc, il faut que la vérité, elle sorte.
Et plus récemment, il y a deux jeunes qui viennent qui sont aussi morts suite à des crimes sécuritaires. Et les deux, du coup, venaient de Vienne. Bilal El Abdani, qui est mort en août 2017, et Joaï Zerouki, qui est mort, lui, en novembre 2017. Alors, Bilal, en fait, lui, il est parti cet été. Il voulait aller voir la mer. Donc, il est descendu à Marseille. Il devait y aller juste pour deux jours. Et le premier jour où il arrive à Marseille, il se fait arrêter par la police dans la rue. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens de l'hôtel où il voulait aller dormir, l'auraient entendu réciter une prière en arabe et crier « Allah Akbar ». Alors, du coup, il est mis en garde à vue pour des faits présumés d'outrage, de menaces de mort à agents, rébellion, dégradation de biens, mais aussi apologie du terrorisme. Cette dernière présomption a notamment entraîné une perquisition au domicile de ses parents par la police judiciaire de Lyon pour y chercher les traces d'une éventuelle radicalisation, ce qui se révélera bien inutile et qui n'apportera aucune preuve. Très rapidement, la mère de Bilal transmet des documents qui attestent de la vulnérabilité de Bilal et de son état de santé au commissariat de Marseille où Bilal est en garde à vue. Pourtant, Bilal passe en comparution immédiate après 48 heures de garde à vue et les magistrats décident du placement en détention provisoire alors qu'il demandait en même temps une expertise psychiatrique. Pourquoi ne pas l'avoir hospitalisé ? Pourquoi l'administration pénitentiaire présente le décès de Bilal comme un suicide un jour après son arrivée en détention ? La famille de Bilal souhaite que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son arrestation, de son incarcération et des circonstances de sa mort. La famille a porté plainte pour homicide involontaire. Et depuis le début de l'année, un juge d'instruction a été nommé pour mener l'enquête. Et souvent, ces décès suspects en prison, comme les morts qui sont liés à la police, se soldent par des classements sans suite, ce qui pour une fois n'est pas le cas. Mais ces procédures demandent beaucoup, que ce soit en termes de temps, d'énergie et d'argent. L'enquête et du juge d'instruction est toujours en cours, donc on ne sait pas encore ce que ça donne. Mais si vous voulez avoir plus d'informations et soutenir la famille, vous pouvez retrouver la page Facebook Vérité et Justice pour Bilal. Et donc il y a un autre de ses amis à Bilal qui est mort lui aussi le 21 novembre 2017. Et il est mort lui dans une course-poursuite par la police municipale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste Joël, il est allé récupérer son quad qu'il avait laissé chez un gars pour qu'il le répare. Et donc, avec un pote, il va rentrer chez lui et roule sur la voie publique. Alors, il se fait contrôler une première fois par la police municipale. Joël, il doit laisser son quad sur place. Et donc, avec son pote, il retourne chercher un camion pour pouvoir ramener son quad. Il revient avec un autre gars, ils sont trois. Et au début, Joël, il reste à l'écart parce qu'il veut pas trop se mêler... de ce qui se passe avec la police. Sauf qu'en fait, quand il revient, il se rend compte que son quad, il a été vraiment abîmé et que du coup, a priori, c'est les flics qui en sont responsables. Alors, il s'approche et là, il y a un flic qui le monte et qui lui dit « Ah, c'est lui !» et qui s'approche de Joaï avec une gazeuse à la main. Joaï, il prend peur et il part en courant. Il est poursuivi par les flics municipaux qui le traquent comme s'il représentait un danger énorme. Et c'est dans cette course poursuite que Joaï perd la vie. Il a été percuté par un TER pour éviter un énième contrôle de police. Ça s'est passé l'après-midi et la famille, elle aurait été prévenue que le soir. La famille, elle demande à ce que la vérité sur la mort de Joaï soit faite et que les flics municipaux responsables de la mort de leur fils soient sanctionnés. Et ils demandent aussi la fin de l'impunité policière. Si vous voulez aussi, du coup, trouver des informations et des prochains rendez-vous pour soutenir la famille, ils ont aussi une page Facebook qui s'appelle « Justice et vérité pour Joaï ».
Et maintenant, on va vous parler d'une autre histoire qui a eu lieu à Toulouse. Le 14 avril 2018, à la maison d'arrêt de Sens, Jawad est mort au mitard sous les coups des matons. L'administration pénitentiaire maquille le meurtre en suicide. Alertée par les réseaux sociaux, une partie des jeunes du quartier du Grand Mirail s'organise. Quatre nuits d'émeutes et d'affrontements avec la police s'en suivent. Et tout de suite, on va écouter le témoignage de deux habitants du quartier de la Reinerie.
On a vu que il s'était passé des choses là dans le quartier du Mirail, dimanche lundi, ouais, Reinerie, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce qui s'est passé, pourquoi
Donc pourquoi du commun? Donc, tout d'abord, en fait, il y a eu un meurtre en cellule à la prison de Seis par rapport à un collègue à nous qui habite à la Rennerie, Jaouen. Il y a aussi des agressions sur une femme voilée à Bellefontaine, et ouais, tout a commencé par là. Et ça nous a vraiment blessés et frustrés. Et on ne pouvait rien faire déjà, parce que c'était des CRS et tout. Ils ont tabassé la femme voilée. Donc on s'est vengé, en quelque sorte, on a pris les armes. On s'est révolté, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais au moins, ça a mis un coup. Voilà, même j'ai eu des collègues aussi qui ont eu des blessures. Ils ont eu des coups de flashball dans le dos, un collègue qui a eu dans la poitrine, plusieurs collègues blessés. Et ça a été vraiment un désastre.
Et c'est quoi votre rapport avec les flics au quotidien dans le quartier?
C'est bavure.
Ils passent au quartier, ils nous regardent de travers et tout, ils nous parlent mal, mais même vous le voyez pas à la caméra, même quand ils filment et tout, dans le cas d'action et tout, vous le voyez pas, mais ils nous parlent mal, ils nous insultent et tout, même quand ils nous font des contrôles, c'est chaud, voilà.
Pour
c'est
moi, ça. Moi, c'est pas de contrôle
doucement. Ouais, ils nous maltraitent déjà, parce qu'en fait, voilà, c'est au faciès, ils nous regardent bizarrement, et voilà, vu qu'on est des gens pas d'ici. Bah, voilà, on est français, mais voilà, nos origines ne sont pas
françaises.
Donc voilà, on est mal vus. Même les fachos, c'est des... Après, je généralise pas, il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. Même pendant l'émeute, ils visaient même pas, ils tiraient au hasard. Ils jetaient des bombes acrymo, il y avait des femmes volées, des mères de famille.
Ils tiraient dans des bâtiments.
Ouais, dans des bâtiments, comment ça s'appelle? Dans des balcons, il y a des enfants et tout.
Ça tirait dans les coursives, donc après l'odeur est rentrée dans les bâtiments, il y avait des mamans qui ne pouvaient pas sortir, ils étaient asphyxiés chez eux, c'était impossible en fait, c'était impossible pour eux de vivre en fait, chez eux. Et après ça nous mettait la faute sur nous, rien à voir, en fait juste on se rassemblait, on parlait, et puis ensuite eux ils nous déclenchaient avec un flashball, et ensuite ça partait, on jetait des cailloux. C'était le seul moyen de riposte en fait, c'était le seul moyen. Si en fait ils seraient venus en face nous parler, on aurait parlé. Et en fait, le seul moyen de riposter, eux, c'était de nous tirer des flashballs, des lacrymos, nous gazer. C'était le seul moyen, en fait. Quand ils ont chopé un, en fait, c'était simple, c'était coup de matraque, c'était ça, ça se résumait à ça. Ça chopait un coup de matraque dans le coin, dans le noir, et ensuite ça le ramenait au comico, ça disait, ouais, c'est pas nous qui l'avons tapé. Et si en fait, on disait un truc, comme quoi c'était lui qui nous avait tapé, ben, l'affaire est partie très très loin. Et comme d'habitude, c'est la police qui a raison, c'est pas nous qui avons raison. C'est comme ça, ça se passe comme ça en fait dans un quartier. C'est toujours la police qui a raison, c'est comme au lycée. C'est pas encore raison, mais là c'est la police qui a raison. C'est comme ça.
Et ça a duré longtemps?
Franchement, ça a duré 3 jours, puis ensuite ça se répartissait dans d'autres quartiers comme Ampalo. Ampalo, quand ils ont appris la mort des leurs en fait, ça a commencé à tirer Ampalo. Ouais, il y a eu plein de trucs. Et surtout, le principal en fait, ça a été à la Rennerie. Puis ensuite, ça a été l'élément déclencheur, ils ont vu comme quoi à la Rennerie. En fait, c'est depuis 2005, depuis 1998, on avait arrêté en fait, on s'était calmé, on avait dit c'est bon, on arrête tous ces soucis, on arrête nos conneries comme ça. Et puis ensuite, voilà, c'est parti, ils ont profité, ils nous ont voulu nous faire des bavures et tout. Et puis ensuite, on n'a pas accepté, on est parti loin, on a fait comme ils faisaient. Comme ils nous traitaient, on les a traités, on est parti au comico, on les a allumés avec des mortiers, on les a tout fait en fait. On les a tout fait. Comme on prenait, on les a fait prendre en fait.
Et comment vous avez appris que le jeune détenu avait été tué à Seis?
En fait, c'est sur Snap. Sur Snap, ça parle. Ça nous a dit comme quoi les matons, les matons sont arrivés, ils l'ont pendu. Après, il y a eu un deuxième crime, il n'a pas été annoncé. Nous, on le savait comme quoi il y en avait un deuxième. Et le deuxième, c'était pareil, il était pendu, pareil. Après, il y a eu les mamans qui ont été traînées, qui étaient voilées pour des contrôles. Les contrôles, ils devaient se passer correctement. Ils sont arrivés, ils ont traîné des mamans voilées, des âgées de 50 ans, 60 ans. Ça les traîne par terre, ça les tire par terre. Et après, nous, on n'a pas accepté. C'était un truc. En fait, c'était la goutte d'eau qui fait des bruits de vase. Ça s'est passé comme ça.
Et il y a eu aussi du mouvement à la prison à Seis suite à la mort.
Il y a eu des mouvements, ils n'ont pas voulu rentrer. Après, en prison, on a à peu près soit une heure, soit deux heures, ça dépend, enfin, je sais pas. Et à un moment, pendant une heure, on a le droit de sortir dehors. Et eux, ils n'ont pas voulu rentrer, ils sont restés dehors. Ça a commencé à mettre des pancartes, ils ont ramené des unités, des renforts, ça a fait rentrer de force, ça a tapé. On ne peut pas filmer parce que les téléphones, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde qu'on a là-bas. Et c'est compliqué. Mais franchement, on peut filmer quoi, 10 secondes, puis ensuite, tu as un maton qui rentre, il te voit, boum, tu prends cher. C'est même pas, ça va te le confisquer, tu vas aller au trou. Même pas. C'est ça te nique ta mère, ça te nique ta mère, c'est tout, ça se passe comme ça.
Et il y a eu de la solidarité de la part des autres quartiers dans
Toulouse? Ouais, il y a des gens de Bellefond qui sont venus. En fait, quand nous, on est les premiers à avoir commencé, c'était la Rennerie. On a commencé, on avait mis un snap, ça a prévenu tout le monde. Tous les quartiers, tout le monde avait mis des snaps. Bellefond, ils sont venus. Bagatelle, ils sont venus, en fait, ça s'est réuni, en fait. Pour une fois, on s'est soudés. Normalement, c'est Bellefond, Rennerie, Varèse. En fait, c'est chaque quartier tout seul. Bah, Varèse, ça fait partie de la Rainerie, mais c'est chaque quartier tout seul. Puis ensuite, là, on a oublié tous les trafics. On s'est dit, bon, maintenant, on s'allie. Bagatelle, la Rainerie, ils avaient eu un souci au niveau des mœurs, des règlements de compte. Là, ils sont unis. On les a caillassés, on a fait tout ce qu'on devait faire, en fait. En fait, on s'est vengé des années qui se sont passées, en fait. Des 10 dernières années, en fait, de 98 à 2018, on s'est mangé de tout ça, en fait. En fait, moi, j'ai eu plein de soucis. Hein. Je me suis fait rentrer dedans, j'étais en cross, je me suis arrêté, ça m'a rentré quand même dedans.
La police ?
Ouais, ça rentre dedans, ça te rentre dedans. Alors, tu t'arrêtes, la moto, elle est honnête, ils vont venir, ils vont te mettre par terre, ils vont te mettre des tartes, ils vont te dire, ouais, la moto, t'as les papiers. Tu vas dire, non, je les ai pas sur moi, en fait. Tu vois, tu sors en short, enfin, ça dépend. Je les aurai pas sur toi, mais oui, quand même, ils vont t'enculer, ils vont ramener au comico. Alors, tu vois, à la fin, au final, ils vont voir qu'ils ont bon tort, ils sont pas trop loin que nous. Ils vont te faire dégager, ils vont te niquer ta mère, c'est tout. Ça se résume comme ça. Si t'as le prend, ça te nique ta mère. Le lendemain, ils te reprennent, ta mère, c'est comme ça.
Et là, la situation au quartier, c'est comment
Là, franchement, ça s'est calmé. Il y a plus de police, tranquille. Maintenant, c'est chacun dans son coin, on est tranquille. Mais on n'oublie pas ce qui s'est passé en prison, c'est ça. En fait, ça reste dans notre tête. Et on sait très bien que s'il y a encore un truc qui se passe comme ça, ça peut partir très très loin.
Et alors maintenant, on va écouter une petite réactualisation de ce qui a pu exister dans Rock Against Police avec un entretien avec un rappeur de Lyon qui est membre d'un collectif qui organise des concerts de soutien notamment pour des familles sans abri. Et en fond, il y a un son produit par 12 rappeurs qui s'appelle Marche.
365 jours, c'est la merde de mars en mars. Abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche. Là où ça parle en blague, blanc beurre, même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans beurre. Depuis 6 mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments de pleurs de ceux qui comptent plus sur la chance mais sur leurs deux pieds.
Ok, donc enchanté mec. Moi c'est GTK, donc ça veut dire Great Teacher Kama, je suis un rappeur de Lyon. Je suis aussi organisateur d'événements via l'association Amalaita. C'est l'asso qu'on a monté donc avec John, big up à lui d'ailleurs, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Sizzline, avec l'envie de monter en fait un projet, d'organiser des dates, des concerts, vraiment de se mettre au service du local aussi. À Lyon, il n'y a pas grand chose pour aider les artistes. Et du coup là c'est vraiment histoire de participer à toute cette communauté rap et hip-hop même, et à vouloir que ça se grandisse, que ça se professionnalise. Amalaita, c'est en fait. C'est un seul mot, mais ça vient de l'anglais I'm a lighter. Et l'idée en fait c'est d'allumer l'étincelle. Et du coup voilà, c'est commencer à faire, participer, à créer ces rencontres là, les connexions. Et puis cet amour, je crois, pour réussir faut s'aimer. Et j'ai bien envie qu'on s'aime à Lyon, on se dise ouais c'est cool, on fait des trucs bien, qu'on soutienne et qu'on soit là.
Violence raciale, police et garde de séjour, c'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ses tours.
De mon vocabulaire j'ai effacé, abandonné. C'est marche ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, perdre du temps, des temps, de l'argent, finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Dépouillant sanglante et sur les sentiers de la liberté. Dans la rue des millions, traités comme des chiffons, si l'amour est aveugle.
Concert de soutien, ça c'est parce que notamment, je fais un gros big up à lui parce qu'il peut pas être là malheureusement aujourd'hui, mais c'est Dr Kyle du Labo. Du coup, ouais, avec lui, on s'est rencontrés. Moi, ça faisait un moment déjà que ça me trottait dans la tête de coupler à cette action culturelle une action sociale, ou en tout cas vraiment de pouvoir apporter du soutien. Du coup, voilà, l'idée c'est de se mettre au service de ceux qui ont besoin, donc par l'organisation de concerts de soutien. On a fait deux au Toy Toy, notamment pour Jamais Sans Toi. Et voilà, ça a été récolte de fonds. On organise aussi des discussions avant les concerts pour parler avec les acteurs sociaux, pour parler avec la population civile qui est intéressée, qui se demande qu'est-ce qu'on peut faire mais qui ne voit pas forcément ce qu'ils peuvent faire. Là, c'est un lieu d'échange où on rencontre, et par exemple, là pour Jamais Sans Toi, il y avait des personnes migrantes ou réfugiés, donc on essaie de ramener ces gens-là, de faire qu'il y ait une vraie rencontre, une vraie discussion, et que localement il y ait une sorte de prise de conscience. Et voilà, et ensuite nous ce qu'on a décidé aussi c'est de se mettre au service, donc c'est-à-dire qu'on organise nos propres soirées pour des gens en soutien, et après si jamais il y a des gens et des associations qui recherchent des personnes pour les aider à organiser des concerts, des journées culturelles, etc. Nous on est là, on a des contacts pour louer du matos, on a des contacts pour trouver des techniciens sans lumière, on a des contacts pour des groupes. L'idée c'est vraiment
Né du mauvais côté de la Méditerranée, l'espoir fait mourir, toute ma famille s'est noyée au fond de la mer, tant de vie broyée. Je rêve d'avoir les papiers, Casanegra, combien tu rêves pour faire l'oracle. Carte de séjour, j'avais 4 piges dans mon anorak. Les anciens font preuve de courage, 83 la marche.
Et l'Amphi Z, c'est un squat qui a un ancien caserne d'entraînement des pompiers, si je dis pas de bêtises, qui est vers QC là-bas. On a organisé un concert, alors c'est pas nous qui avons organisé un concert, là je place un gros big up à Sonia parce que C'est vraiment, du coup, elle, on l'avait rencontrée au Toy Toy pour justement la soirée en avril, pour la deuxième qu'on avait fait pour Jamais Sans Toi. Elle était là avec son idée de vouloir organiser ça, donc elle a trouvé des artistes qui faisaient du théâtre, elle a trouvé des danseurs, des danseuses notamment, et des danseurs, des groupes de rap pour venir faire de la musique aussi. Elle s'est bougée pour qu'il y ait du barbecue, etc. Enfin bref, elle a fait un gros taf. Et comme il n'y avait personne vraiment pour l'aider à organiser tout le côté vraiment événementiel, tu vois, on va dire autour de ça, on s'est rencontré à cette soirée et on a dit pas de soucis.
En première ligne, quand il s'agit de la misère, on appelle ça des balivernes quand les Arabes se manifestent. C'est minable, atroce combat, on marche le torse bombé. C'est con, mais vous ne pouvez rien contre la force du nombre. On fera passer nos idées, quitte à fracasser les vôtres. On soutiendra les nôtres juste pour agacer les autres. 1983, la machine est en marche. Il suffit d'une carte de séjour pour que les racistes s'en marchent.
Mais pourquoi la musique comme mode de lutte?
Déjà parce que c'est ma passion, personnellement. Donc tu vois, quand je suis là-dedans, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois. Genre quoi qu'il se passe, je suis content. Et après parce que tu vois, on parlait du rap tout à l'heure un petit peu. Je veux dire, le rap aujourd'hui, c'est le style de musique qui touche le plus de personnes, le plus de gens partout dans le monde, rien que ça. Ensuite la musique, tu vois, c'est aussi une façon de dire des choses et que ça puisse être entendu, accepté. C'est une énergie. Moi en fait je crois beaucoup à ça, surtout c'est une énergie la musique. C'est que tu vas venir à un concert, les artistes ils vont te faire kiffer, tu vas partir, tu vas dire waouh, incroyable, j'ai vécu un moment de ma vie de ouf. Et il y a tellement peu de choses qui te font ressentir ça, je trouve, dans ta vie. Tu vois, un bon concert, c'est une émotion de dingue. Une émotion de dingue. Et du coup, je crois que c'est un mode qui est très bien pour rassembler les gens. Au-delà de la musique, c'est pour tout ce que nous on organise, c'est parce que c'est notre truc à nous. Mais après, il y a aussi du graph, il y a des DJ, il y a des breakers qu'on aimerait bien ramener, vraiment ces éléments-là. Mais après, je pense que la question, c'est aussi pourquoi un événement culturel plus qu'un événement simplement militant. C'est parce que quand t'es dans juste le militantisme, on va dire, t'as la passion, t'as la colère, mais ça, des fois, ça t'enferme, tu vois, dans ton ressenti. Quand t'es dans la musique, dans le théâtre, dans tout ça, c'est l'ouverture, en fait. On parle beaucoup de convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on est tous avec nos passions et nos envies d'avancer différentes, et on doit tous aller au même point. Et avec Kyle, notamment, ce qu'on réfléchissait, c'est qu'aujourd'hui, je crois que l'important, c'est la transversalité, c'est-à-dire que tous les fronts de lutte et de combat, en fait, font partie d'un seul et même système d'oppression, concrètement. Et que finalement, le but, c'est pas tous d'aller se battre sur un seul point. Par contre, c'est de trouver des causes, et chacun dans son champ de compétences, chacun dans son, tu vois, dans sa passion, dans ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, on sait faire des choses, et il faut qu'on utilise ce qu'on sait faire pour faire avancer ensemble.
Tolstoï à Gandhi, de Gandhi à Luther, de Malcolm au Minguette, les frères s'inspirèrent. Marche des beurs, marche des frères, marche des sœurs. S'ils en ont marre des nôtres, ils en ont marre des leurs. Car ici c'est chez nous, God damn, c'est notre putain de pays. Depuis que je suis petit, ma mère paye, 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 paye. De la marche en 83 aux émeutes en 2005. La rage ne fait que dormir, un espoir en 2005.
Si on veut vous retrouver, vous suivre, comment on fait?
Et écoute, Facebook, Amalaïta, pour commencer, le 16 juin. Du coup, là, c'est la dernière de l'année qu'on fait au Toy Toy le Zinc. Donc ça, ce sera pas une soirée, on va dire, militante. Voilà, c'est la dernière soirée qu'on fait avec l'officier Zen. Avec, il y aura Blackie et Nilad. Et ensuite, là, semaine prochaine, on a une réunion avec les personnes de l'organisation, justement, de la journée à l'officier Zen. Et on va commencer à voir aussi un petit peu quelles sont les prochaines actions de ce côté-là.
Je pense, je crie, je pleure, j'apprends, j'avance, je vis, je meurs comme toi, avec des rêves pleins de cœur. Je suis né ici, si, j'ai grandi ici, si, je veux construire aussi si, ma vie et ma famille comme toi. Je veux avoir.
Il y a de l'espoir aujourd'hui. Il y a beaucoup de galères, tu vois, mais il y a de l'espoir. Et l'espoir, ça passe aussi par l'action, parce que quand tu commences à faire, tu te rends compte que t'es pas seul à faire. Il faut, moi j'aime each one teach one. Ouais, c'est ça. Each one teach one, ce sera ça, tu vois. Je crois qu'on a tous à apprendre des autres, et on a tous quelque chose à apprendre. Faut rester humble, mais plus que jamais aujourd'hui, c'est le moment de montrer qu'on a des choses à dire.
Des rêves dans la tête, ton âme est vide, sur nos poches. Pas le même combat, donc on fonce quand l'État nous stoppe. C'est qu'on cultive la différence sur la différence. Mais qui ose me parler en France de l'égalité des chances? On ne raye pas une façon de vivre avec un stylo. Un stylo n'aspire pas au respect avec des chiffres. Depuis quand la liberté a-t-elle une couleur? On marche la tête haute, même si on veut noter notre bonheur.
Génération Zidane, plaque, blanc, beurre. La France, on a eu peur, c'était qu'un battement de cœur, un élan, une dynamique aberrant. Tu sois au FN, après ça qu'on compte le plus d'adhérents. J'ai vu la France pencher, la marche des beurs de 83, fils en a la gorge.
Et donc pour conclure cette émission consacrée aux luttes autonomes dans les banlieues des années 80 à aujourd'hui, on va vous lire le communiqué du comité Adama qui appelle à joindre le cortège de tête lors de la manifestation de demain. Pour mémoire, le comité Adama, du nom d'Adama Traoré, s'est constitué après la mort du jeune homme le 19 juillet 2016 dans la cour de la gendarmerie de Persan en banlieue parisienne à la suite de son interpellation. Les luttes des quartiers populaires en cortège de tête. Le comité Adama appelle tous les secteurs en lutte à le rejoindre dans le cortège de tête le 26 mai 2018. Il est temps d'en finir avec les appels creux à la convergence des luttes. Depuis Nuit Debout jusqu'aux manifestations du mouvement social actuel, les quartiers populaires sont évoqués à la marge. Les luttes des quartiers populaires sont considérées comme étant périphériques. Nous n'allons pas nous contenter de quelques phrases antiracistes à l'heure où l'armée de terre est envoyée pour encadrer un événement festif et familial à Beaumont-sur-Oise. Des militaires ont été envoyés avec les armes de guerre face à des enfants dans le quartier de la famille Traoré qui mène la lutte pour réclamer justice pour Adama. On assiste à une véritable gestion coloniale des quartiers qui font face aux violences policières. Nous refusons les injonctions qui sont faites au mouvement des quartiers populaires de n'aborder que la question sociale, avec au passage un refus de considérer le racisme qui structure la société comme participant de cette question sociale. Pour nous, la question sociale comprend évidemment la gestion raciste de nos vies. Nous ne sommes pas dupes, la casse des services publics, la surconcentration des habitants des quartiers populaires dans les secteurs du marché du travail les plus précaires font que nous sommes les plus concernés par la question sociale. Dans certains quartiers, il n'existe quasiment pas de services publics. Ce sont des territoires complètement enclavés. L'exemple récent de la glorieuse grève des salariés du nettoyage de la société Honnête a permis de mettre en évidence l'exploitation capitaliste, raciste et sexiste dont sont victimes les descendants de l'immigration post-coloniale dans ce pays. Ce sont nos mères qui sont massivement exploitées dans les nettoyages industriels. L'autre grande victoire des quartiers populaires concerne le combat mené par les cheminots marocains de la SNCF dans l'indifférence générale de la gauche et des syndicats majoritaires. Ils ont fait condamner la SNCF pour discrimination. Là encore, il s'agit de nos aînés, ce sont nos pères. Partant de ce constat, n'attendons plus que les grands partis de gauche et les syndicats prennent en compte réellement nos luttes. Rejoignez-nous dans le cortège de tête où seront présentes les luttes des quartiers populaires. Faisons une véritable alliance à égalité contre ce système. Hashtag 26 mai pimenté.
Qui suis malmené, mal aimé, et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années, l'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée, mes chances de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie, car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser des remparts autour des peaux noires et métissées, je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens l'alibi. Et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé, chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans les nids de l'ordre. Je me méfie quand on m'aborde, et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, je suis une menace et une nuisance. À l'évidence, la délinquance en puissance. Coriace sous la cuirasse, tenace dans la démence. Une extrême virulence sans classe et élégance. On discute de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race. Mes rues, toi et taudis qui embarrassent. J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse. Que je transgresse et agace en état de grâce. Qu'apparaît stress et détresse là où je passe. Que seul m'intéresse la paresse. Que j'ignore la tendresse, que j'adore. Ajouter des crimes à mon palmarès. Que c'est avec le poing que la police me dresse. Et qu'au-delà du périph' nord se trouve mon adresse. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Je n'ai pas l'air qu'on tolère, j'ai l'allure, abonné au bas salaire, la couleur qui ne connaît que la colère. Et pour l'heure, j'ai la figure accolée au malheur. J'endure, brûlure, molar et procédure. Parcours au radar, mi
miradors et coups durs, le refus des videurs et les règles en vigueur, le mépris des leaders, les lois et les rigueurs, c'est la guerre contre moi et pour la gloire. Je suis contrarié, sans emploi ni espoir, et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire. Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme et puis me tordre, m'aborde avec une potence et une corde, et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. Ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort. L'échec ou l'accord, ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord.